Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh. Ça c'est de la vie, je crois. Ah, c'est magique cet endroit.
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène dans une destination qui est assez connue, qui est assez tendance, mais d'une façon qui devient aussi de plus en plus tendance, et j'ai envie de dire tant mieux. Cette façon plus éco-responsable, cette façon plus slow travel, c'est une façon où on va aller chercher une introspection un peu personnelle. Et aujourd'hui je t'emmène en Islande avec mon pote Tortuga, a.k.a. Tortuga sur les réseaux, sur sa chaîne YouTube et sur Instagram. Moi, je vais l'appeler Mathis hein, pendant ce podcast. Mathis, comment ça va?
Bah, ça va super. Merci pour cette intro, du coup.
Je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on avait essayé d'essayer de faire ce podcast. Je n'avais pas eu le temps à l'époque et je m'en excuse encore une fois. Et quel est ce trip dont on va parler? Ça va être tout simplement la traversée de l'Islande, donc destination tendance, comme je le disais en intro. Mais d'une façon j'espère va devenir de plus en plus, c'est le faire à pied, en autonomie, donc avec un faible impact aussi sur le lieu qu'on va visiter, et de le faire en autonomie, c'est-à-dire aussi en introspection, parce que l'air de rien, quand on est en autonomie, ça implique un voyage différent, un voyage encore plus personnel. Et moi, ma première question tout simple, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce trip, en fait? Pourquoi ce trip?
Alors, il faut savoir que... Moi, j'ai commencé à voyager il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai commencé par suivre tes vidéos, Alex, qui m'ont beaucoup inspiré quand j'ai débuté mes premiers voyages. C'était il y a 3-4 ans. Hein.
Pas, oh, ça va, putain, ça va. Ça. Et là, ils m'ont sorti des trucs pires.
Et en fait, quand je suis parti voyager, donc j'ai fait un tour du monde aussi, à visiter plusieurs pays. Ouais. Et ce qui m'a le plus... ce que j'ai le plus aimé en fait, pendant ces voyages, c'est quand je me suis retrouvé seul... face okay. À la nature de différents pays, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Et moi qui suis de Paris de base, je n'avais pas cette occasion de me retrouver justement seul face à la nature. Ouais. Et je me suis attaché à cette nature. Et quand je suis rentré de ces périples, je me suis dit, il faut absolument que je continue ces randonnées que je faisais pendant tous ces voyages, cette nouvelle passion que je venais d'acquérir grâce à ce tour du monde. Et l'Islande, en fait, pour moi, c'est un pays qui représentait la nature à l'état pur. Aller en Islande, c'est fouler une terre, c'est fouler la terre il y a des millions d'années auparavant. C'est des roches volcaniques, c'est vraiment comme à quoi ressemblait quasiment la terre des milliers et des millions d'années auparavant. Donc pour moi, c'était une terre préservée et je voulais absolument, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Et donc en fait, en rentrant, je me suis dit, c'est quoi ta prochaine étape? C'est de partir en Islande, mais cool. Pas de n'importe quelle façon. Parce que, comme tu le disais bien, l'Islande, c'est devenu de plus en plus touristique, malheureusement. Ouais. Là-bas, il y a des masses de gens qui se regroupent autour des cascades. En fait, ah, on n'a plus vraiment cette... Ah, c'est un truc de dingue. Quand, bah, justement, j'en reparlerai, mais quand j'ai terminé mon périple, je me suis retrouvé, du coup, quelques jours à un peu me détendre, à chiller devant des lieux, plus, des spots plus touristiques.
Ouais.
Et en fait, ça... casser toute la beauté de cette nature sauvage, justement, parce que c'était plus sauvage. Il y avait des gens partout et on se retrouvait à faire la queue quasiment pour visiter une cascade. Et c'est exactement ça que je voulais éviter. Donc, je me suis dit comment aller en Islande et éviter les touristes. Ouais. Donc, au début, je me suis renseigné, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas le tour de l'Islande? J'ai vu ça, je me suis dit, bon, déjà, c'est très long, très coûteux. Et en plus, en fait, il n'y a que des spots touristiques avec... toute la population islandaise, en fait, vit sur les littoraux de l'Islande, donc sur le tour. Et je me suis penché, du coup, je me suis dit, mais attends, le centre de l'Islande, on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Et effectivement, en fait, c'est des terres très désertiques. Les gens ne vivent pas là-bas parce que, justement, il y a des terres... rien ne pousse là-dessus, il n'y a pas d'animaux.
Ah ouais?
Ah non, c'est vraiment...
C'est volcanique, en fait. C'est vraiment... Ouais, c'est volcanique, ouais.
C'est ça. Et vu qu'on appelle l'Islande la terre de feu et de glace... Ouais. Il y a encore beaucoup de volcans en activité.
Sérieux?
Des volcans, ouais.
Ah, bah, tu vois, je croyais qu'il y avait qu'une fois celui qui s'était réveillé, qui avait foutu bien la merde, le Hushkelbreng, celui que personne n'arrivait à prononcer.
Et il y a ta fête Yokul.
Ah, ok, monsieur. Ah, ouais, d'accord, très bien. Apparemment, il y en a qui ont bossé, c'est classique, très bien. Bon, écoute, tu l'as très bien prononcé. Et en fait, il y en a plusieurs. Il y en a régulièrement et plusieurs tout le temps, en fait.
C'est ça. Et notamment En fait, c'est les volcans. La plupart des volcans se trouvent sous les glaciers.
Ah
D'ailleurs, c'est
putain,
ça
ok.
qui est assez dangereux, en fait, entre guillemets, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces glaciers fondent et ils exercent moins de pression sur la croûte terrestre, ce qui, en fait, augmente l'activité sismique,
Ah
peut
yes.
augmenter l'activité sismique, et en fait, ça crée beaucoup plus d'éruptions volcaniques qui, eux, en fait, c'est un cercle vicieux, font fondre plus de glace et ça crée des yokulops. En fait, ce sont des inondations soudaines de glace qui dévastent en fait tout sur leur passage, et ça se passe beaucoup dans le centre de l'Islande. Et d'ailleurs, pendant ma traversée, j'ai eu l'occasion de passer entre le Eyjafjallajökull et un autre glacier qui était à ma gauche, qui était le Katla, le volcan Katla,
Plus facile à
qui était en
prononcer
fermeture.
celui-là, beaucoup plus
Plus
facile,
simple, c'est
hein?
ça.
C'est pas mal celui-là.
Et celui-là, il est rentré en éruption il y a quelques années aussi,
Ah ouais.
un peu plus ancien, et il se réveillerait deux fois par siècle, ce qui est énorme.
Ah, ce qui est énorme. Alors, tu vois, on se rend pas compte encore une fois à l'échelle, parce que des fois on entend aussi des volcans qui sont à moitié en activité, un peu tout le temps, donc on sait. Ok, donc deux fois par siècle, mais quand tu dis se réveille, c'est qu'il s'énerve, c'est ça, il s'énerve.
Il s'énerve.
Ok, d'accord, c'est pas juste salut des petites, je t'envoie deux, trois petites laves. Non, c'est qu'il s'énerve pour de bon. Ok, et du coup, quand t'as eu envie justement d'avoir cette dose de nature, de t'immerger, de t'éloigner, et tu te rends compte que c'est désertique, tu te dis quoi là à ce moment-là? Tu te dis merde, c'est con ce que je fais, je vais traverser le désert. Parce que d'une fa certaine façon, tu vas en pleine nature. On s'attend tous à l'Islande, à des cascades de partout, à du vert, des champs, enfin, tu sais, des prairies de partout. Sauf qu'en fait, tu es en train de me dire, c'est des étendues à perte de vue potentiellement de roches volcaniques noires. C'est un peu ça.
C'est ça. Donc en fait, donc j'ai traversé en 16 jours, donc 15 jours de marche et une journée de repos.
Ouais.
Je vais connaître plein de, il va y avoir plein de sortes de paysages. Donc je vais traverser un désert de sable de roches volcaniques.
Ouais.
Je vais escalader un volcan, le volcan Askja au début. Avec là, ça change complètement. C'est comme si on monte au-dessus, on escalade une montagne avec des étendues enneigées partout, avec la
Wow.
fonte de petits glaciers, des petits ruisseaux où je vais avoir l'occasion de me baigner tout nu, seul, dans des petits ruisseaux.
Ouais, mais t'as ce
Et
petit
on.
côté exibo, je le sais, ça.
Ça se voit tant que ça?
Et du coup,
Je
voilà.
suis habillé là.
Pendant le podcast, exceptionnellement, il s'habillait et j'ai apprécié le geste d'ailleurs. Mais en fait, moi, c'est avant de nous parler vraiment de tous ces décors-là, c'est tu t'es dit quoi en fait quand t'as vu que ça allait être vraiment désertique, il allait y avoir des pour cette autonomie parce qu'il faut se préparer. Et avant d'arriver sur le côté préparatif, parce que j'aime toujours rendre les choses concrètes, des choses qui paraissent insensées, t'as traversé l'Islande à pied pendant 15 jours, mon pote, il y a des gens qui disent, mais comment t'as fait quoi? Enfin, ça veut dire que t'as pas fait de course. Si on comprend bien, t'as pas fait beaucoup de courses, tu vois. Avant de rentrer dans l'aspect pratico-pratique, moi, il y a vraiment une chose que une autre question dans le pourquoi, j'ai envie de le triturer un peu plus. T'as dit pourquoi tu voulais y aller, t'avais une dose de nature, tu voulais te réconcilier avec ça, tu voulais échapper aux touristes, mais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais te prouver aussi au fond de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherchais, parce que là, tu allais chercher à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu allais chercher à l'intérieur ou pas?
Ah oui, alors complètement. Sachant qu'en fait, j'aurais très bien pu faire une randonnée, comme je disais, autour de l'île, ou faire des randonnées qui étaient connues en Islande. Mais mes voyages antérieurs, mes voyages autour du monde, les expériences qui m'ont le plus marqué, c'est les expériences où j'ai le plus eu peur de faire. Pourquoi? Parce que, en fait, en choisissant la facilité, ce sont des expériences que je retenais les moins, parce que je ne me mettais pas, en fait, dans un défi. Et c'est comme si, en fait, on se lançait dans quelque chose, on connaissait déjà l'issue. Là, quand j'ai vu qu'on pouvait traverser l'Islande à pied, je me suis dit, en fait, là, ça va être un défi personnel. Je vais me lancer dans un nouveau défi. Donc, je vais être vraiment seul, sans personne. Donc, je vais voir comment je réagis seul, aussi en plein milieu
Bien
de cette
sûr.
nature. Donc, ça, c'était une première raison. Au final, un défi assez sportif et un défi aussi de me lancer dans l'inconnu, faire quelque chose qui n'est pas courant de faire, pour avoir plein de nouveaux souvenirs par la suite. Mais il y avait surtout aussi une autre raison, qui est une des raisons majeures aussi, c'est que, en fait, je voulais me retrouver nez à nez seul avec le Vatnajökull. Je voulais
Ah ouais.
arriver devant ce plus grand glacier d'Europe, qui prend 10% de l'Islande quand même.
Ah oui.
Vatnajökull, c'est 10% de l'Islande.
Ah oui, d'accord. OK.
Et malheureusement, il est amené à disparaître dans les 200 ans, d'après les scientifiques, à cause du réchauffement climatique. Et je voulais absolument aller le découvrir, parce que je savais que peut-être mes petits
avant
enfants
qu'ils disparaissent,
n'auront
parce
jamais.
Que c'est vrai que quand tu auras 230 ans, il sera plus là, tu diras même.
Bah ouais, et vu que je vais vivre aussi longtemps, j'espère. Et je voulais absolument me retrouver face au Hanayu Cool, pas par des zones touristiques, bondées de gens. Je voulais arriver par mes propres moyens, à pied, jusqu'au centre de l'Islande et me retrouver nez à nez et longer le Vatnajökull à pied, en fait.
Bam.
Et c'était aussi une des raisons.
Là, il y a une petite, là, tu vois, là, il y a un petit synopsis. Là, il y a un petit suspense. On aura envie d'entendre vraiment la belle histoire.
Cool.
Avant de partir justement sur le côté narratif, et d'ailleurs, je te remercie d'avoir répondu à cette question. Comment on prépare ça? C'est-à-dire que là, que ce soit entre Jean-Michel, 62 ans ou 65 ans, qui a envie de faire une petite rando pour sa retraite, ou Enzo, 16 ans, au fin fond de sa chambre d'ado dans la campagne, qui rêve peut-être aussi de faire ce trip parce qu'en t'écoutant, clairement, on a besoin de quoi? Est-ce que tu t'es beaucoup préparé finalement, ou est-ce que tu as tracé un trait? Est-ce que tu as beaucoup préparé tes cartes? Quel équipement il t'a fallu? Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac? C'est parti. Vas-y, fais-nous rêver, rends-nous ça concret.
Alors, faut savoir juste avant ça que ça tombe bien parce que avant cette expérience, je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi compliqué entre guillemets, d'aussi
okay.
aventureux.
Ok, d'accord.
J'avais campé peut-être deux fois dans ma vie avant.
Ah oui, ok, d'accord.
Donc,
limite, à la grande
motte, tente,
en plus. À la grande motte.
C'était limite ça, quoi, à Fontainebleau ou bon, à montagne un peu avec Justin Van Collen, un ami à moi. Mais je n'avais jamais fait ce type de périple. Donc, je commençais de très bas. Et la première chose qu'il fallait faire dans ce défi, donc j'avais quand même peur, donc oui, je me suis préparé évidemment. La première chose, c'est de ne pas se lancer dans un défi, en fait, même si je le faisais seul, de me préparer seul. Il fallait que je trouve de l'aide, des gens, des personnes qui ont effectué cette expérience ou une expérience similaire pour qu'ils puissent m'aider. Donc c'était mon premier objectif. J'ai regardé sur internet, j'ai cherché. J'ai finalement trouvé un super site qui s'appelle Les Deux Frères en Islande.
Génial.
Deux Français qui ont traversé l'Islande, j'ai réussi à les contacter et on s'est appelé, ils m'ont donné tous les dangers auxquels je vais faire face, etc. Donc ils m'ont bien préparé.
Super.
Donc, ça, c'était vraiment le premier truc à faire.
Non, mais tu vois, c'est un truc tout con auquel j'aurais même pas songé. Tu penserais tout de suite à vraiment te renseigner sur le matériel, mais pas tant à finalement contacter et absorber les connaissances de gens qui ont déjà vécu ce genre d'expérience. Donc, ouais, super conseil.
Comme ça, on se sent moins seul en plus. Et dès qu'on a une question, on a au moins un contact et ça nous rassure un peu.
Bien sûr.
Ensuite, donc, sachant que en fait, quand je me renseignais sur Internet, j'ai aussi posté des questions sur les forums. Et c'est là où j'ai eu mes premiers doutes. C'est-à-dire que il y a eu quelques aventuriers qui se sont rendus compte de mon inexpérience, entre guillemets, et qui ont commencé à me tuer un peu sur les forums en disant... Non, mais Tortuga, calme-toi, tu ne vas pas commencer à faire ce genre de randonnée alors que tu as si peu d'expérience. Ça se remarque énormément, tu ne vas jamais y arriver. Abandonne, fais l'un de Manalugar qui sont les derniers jours en fait, du périple, qui sont une randonnée très connue. Oublie ça. Alors là, quand j'ai reçu ce genre de message, je me suis dit, est-ce que vraiment ce que je fais.
N'est pas inconscient.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Donc je me suis remis beaucoup en question. Et finalement, je me suis dit non, il faut aller jusqu'au bout. Et c'était un rêve qui trottait dans ma tête depuis plusieurs mois, quasiment un an et demi.
Ouais.
Donc je me suis dit non, je vais trouver un moyen, je vais contourner ce problème de l'inexpérience. On peut y arriver, on peut trouver d'autres moyens pour contourner cette inexpérience.
Génial.
Donc, ensuite, je me suis bien renseigné sur... l'itinéraire pour vraiment définir l'itinéraire, donc j'ai trouvé.
Mais c'est con, mais si c'est un désert, il n'y a pas de GR, il n'y a pas de signe de marquage. Je dis connais, c'est juste c'est une direction, alors c'est par là quoi, tu vois, non?
Alors c'est ça, la plupart du cas c'était ça.
Okay,
sachant que il y a quand même des signalisations, c'est-à-dire qu'au début et surtout à la fin, on a des sentiers qu'on peut suivre, par exemple, quand je débutais, il y avait des fermiers quand même qui passaient par là. Donc, il y a parfois des traces de pneus. À un moment, il y a quand même des refuges aussi qui se trouvent un peu partout en Islande. Il y en avait même un en plein milieu du Vatnajökull qui sont faits pour les aventuriers, justement, les personnes qui ont traversé le glacier. Donc, ils ont bien fait attention à ça, la sécurité d'Islande. Donc, il faut évidemment bien rejoindre tous ces points, sachant que la nourriture va être limitée, donc... Il faut bien détailler chaque point de l'itinéraire pour essayer de passer par ces endroits.
Okay.
Il y a des endroits à risque d'inondation, des endroits où il faut traverser des gués qu'on ne peut pas traverser. Donc, il faut quand même bien tracer cet itinéraire. Et heureusement que j'avais contacté les deux frères en Islande parce qu'ils ont pu me partager leur ancienne map
Ah yes.
avec l'itinéraire que j'ai pu adapter sur un logiciel qui s'appelle Basecamp par rapport aux cartes plus récentes, etc.
Putain, génial. Et ça, c'est un truc con. Il y a une question qui me vient en tête quand tu parles de passage à gué. Donc, ça me fait penser fond des glaces. Ça veut dire niveau de rivière. Quelle est la meilleure période pour faire ce trek? Parce qu'en fait, je me dis, on va dire, ouais, je vais le faire l'été. Mais ça se trouve, l'été, tu peux pas le faire parce qu'en fait, les rivières sont trop hautes. Et qu'en fait, il va falloir que tu gèles un peu plus les couilles en hiver parce que c'est peut-être plus pratique. J'en sais rien. C'est quoi la fenêtre de tir pour réaliser cette traversée?
Alors moi j'ai décidé de le faire l'été,
Ok.
de 1, ouais.
À la nage, parce que je traversais les rivières à la nage, posée.
Exactement. J'avais mon petit
Nu,
radeau. Il y en
voilà,
a
comme
qui prennent
d'habitude.
des radeaux. Il y a
Ah ouais.
ceux qui le font de manière plus équipée. Il y en a qui ramènent des petits radeaux et qui pour traverser des gués justement qui sont beaucoup plus forts. Moi j'ai décidé de justement plus travailler mon itinéraire pour essayer de ne pas passer par des gués qui sont pas
Infranchissable,
traversables.
ouais.
L'hiver, de toute façon, le centre de l'Islande est vraiment enneigé. Donc, si on
Ah,
traverse l'hiver, ce sera à ski. On ne peut
ok,
pas le faire à pied.
ouais, ok.
Et donc, l'été, alors voilà, tu l'as bien très bien dit, Alex. Le problème, c'est la fonte du glacier. Et en plus, moi, le juillet 2019, où j'ai effectué ma traversée, c'était un des mois les plus chauds
C'était la
à cause
canicule.
du
Le mec qui a
réchauffement.
choisi la canicule, le con.
Voilà, presque ça. Et j'en reparlerai justement pendant le détail de ma traversée. Mais j'ai failli me faire emporter par le courant à un moment quand j'étais le plus proche du Vatnajökull. Parce qu'en fait, j'ai expérimenté un petit jökulhlaup, comme on dit là, un peu
Wow.
cette espèce d'inondation qui justement augmente le niveau des rivières. Et j'ai traversé un gué qui était tellement large que je ne voyais pas le bout.
Comment ça, tu
Et
voyais
ouais,
pas le bout?
c'est-à-dire que je voyais pas l'autre bout quasiment
Mais ça
de ma
fait.
traversée.
Mais ça veut
Donc
dire ça,
c'était.
ça fait 3 km de long, ça fait. Je comprends pas.
Ah non, c'était pas aussi grand, mais en fait, c'est que. Le problème des gués au niveau du glacier, c'est qu'ils se séparent en plein de petits filaments, enfin,
Ouais,
comme
de
un arbre
ramification, ouais.
de ramifications, c'est ça. Donc en fait, on n'arrivait jamais à voir quand est-ce que ces ramifications allaient se terminer. Et à un moment, j'ai traversé une partie qui continuait avec d'autres ramifications et je ne savais pas quand est-ce que ça s'arrêtait. Et plus la journée passait, plus le niveau de l'eau augmente et donc plus moins il y a de ramifications et plus on peut se retrouver au milieu dans l'eau gelée. Qui engourdissait mes jambes tellement c'était froid. Et le courant était tellement fort qu'il transportait des blocs de glace et de rochers. Et je m'en prenais dans la jambe, mais je les sentais même pas parce que mes jambes étaient gelées en fait.
Parce que là, on parle de combien de temps au moment où tu mets le premier pied dans l'eau, déjà, elle t'arrive où l'eau? Et t'as mis combien de minutes ou d'heures pour faire l'entièreté de ce gué?
Alors, l'eau peut. À des moments, en fait, l'eau est boueuse. Donc elle
Ouais.
est. Pas potable, l'eau qui vient des glaciers comme le Vatnajökull, parce qu'elle se mélange avec cette espèce de terre d'argile qui se trouve en dessous de cette roche volcanique. Et la nuit, pendant que le glacier gèle, pendant qu'il fait plus froid, le sol absorbe un peu l'eau, c'est pour ça que le niveau descend, et la journée, le niveau remonte. Moi, avec mes petites jambes, parce que je suis pas très grand, je vais pas très vite, c'est pour ça qu'on m'appelle la Tortuga notamment. Je suis arrivé en plein milieu de plein midi, en pleine limite canicule en fait de cette journée. Et le problème, c'est qu'en fait, j'avais plus de réserve d'eau. Depuis un jour et demi, j'avais plus que j'étais qu'avec 1 litre d'eau.
Ah
Et
oui.
les rangers m'avaient promis que y aurait de l'eau en fait au refuge qui se situait de l'autre côté
De ce
de ce
guet.
gué. Enfin, quasiment une demi-journée de marche ensuite. Et en fait, j'avais pas le choix parce que normalement quand on arrive dans cette situation-là, face à cette situation-là, on est censé ne pas prendre de risques et de camper et d'attendre le lendemain matin. Mais là, je ne pouvais pas tenir une journée de plus sans eau. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai tenté une première fois. Je n'y suis pas arrivé. J'ai un peu paniqué d'ailleurs. Parce qu'à un moment, je voyais pas le fond. Donc, je me suis enfoncé d'un coup dans la vase. Et l'eau m'est montée jusqu'à la taille quasiment. Et en fait, avec le poids du sac
Ah
et le
oui.
courant, j'ai failli me faire emporter par le courant à ce moment-là. Donc j'ai fait demi-tour, donc ça veut
Et
dire que
puis
j'ai
là, on
retraversé.
parle de l'eau très très froide. Et comme tu dis, ça engourdit très très vite en fait.
C'est ça, hein, c'est l'eau qui est directement issue de la fonte du glacier, donc il y a encore des blocs de glace dedans, donc c'est vraiment proche des 0 degrés, quoi, c'est
Ouais,
moins
on
de
te
5
fout une
degrés.
piqûre de Mister Freeze dans les jambes, quoi. C'est un.
Ah, complètement.
C'est ça.
Donc c'était vraiment pas agréable, et j'ai dû mettre, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, je comptais même plus le temps à ce moment-là quand j'ai traversé le gué, tellement c'était un moment où là, je flippais. Là, j'ai flippé à ce moment-là.
Ok, et, wow. Et t'as réussi. Moi, j'imagine que je suis cité là, c'est un peu con comme question. Mais t'as réussi à t'en sortir? Bah non, non, là, je suis pas vivant, tu vois.
Non.
T'as réussi à t'en sortir sans tomber, sans séquelles, entre guillemets.
Ouais, j'y suis arrivé sans
Genre, t'as pas une
séquelles.
petite story où tu dis, ben, pendant cette traversée, j'ai perdu un orteil parce que il a été trop froid, il s'est gelé, j'en sais rien, non.
Non, rien du tout. Rien du tout, heureusement. En fait, le risque, si j'étais tombé, je serais certainement pas. J'aurais pu me rattraper plus tard quand le courant est moins fort, peut-être au bout de ce gué, de cette rivière. Mais le problème, c'est qu'en Islande, moi, ma pire crainte, c'était de me mouiller, de mouiller mes affaires, parce qu'on peut très vite partir d'hypothermie, justement,
C'était
dans
quoi
ce
la
pays.
température ambiante au-delà de, tu vois, du soir, mais de la journée, c'était quoi?
Alors justement, vu que c'était le mois le plus chaud, donc finalement il a fait relativement chaud pour là-bas.
Il faisait
Il
7
devait faire
degrés.
entre 10 et 20 degrés pendant la
Ok,
journée.
ok.
Et pendant la nuit, on pouvait se rapprocher, ça dépendait un peu de l'endroit où j'étais en Islande, ça se rapprochait ça pouvait être parfois le plus chaud entre 5 et 10, et
Ok,
parfois
ça
plus se
pique un peu.
rapprocher entre 0 et 5 degrés.
Ouais, ça picote un peu. Est-ce que, alors du coup, l'histoire ne le dit pas, il y avait de la flotte dans ce refuge ou pas finalement? Ou est-ce que t'as fait tout ça pour rien?
Finalement, quand je suis arrivé dans le refuge, il n'y avait pas d'eau.
Oh putain, non! Oh le. Oh,
Mais.
ça te casse un moral ça! Oh là, tu dis enfoiré de Ranger, putain.
Ouais, c'était déprimant, mais il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup remonté le moral, c'est que dans ce refuge-là, j'ai retrouvé trois autres aventuriers.
Oh putain, j'ai que trois potes, je me suis dit, oh mais qu'est-ce que tu fous là?
Trois potes qui étaient là, mais attends, on ne savait même pas que tu étais en Islande.
C'est ça, c'est
Non, non,
fou.
trois autres aventuriers, deux Espagnols et un Français, qui étaient dans la même situation que moi, et qui
Ah
effectuent
ouais.
en fait la traversée avec des itinéraires différents. Et pareil, ils étaient en manque d'eau, et s'étaient retrouvés là sans eau. En fait, il y avait une réserve, normalement il y a une réserve d'eau, parce que là on était vraiment au centre de l'Islande, proche du Vatnajökull. Donc en fait, c'est un gîte vraiment paumé au milieu de nulle part. Et il y avait un espèce de bac en fait avec écrit Water Emergency, donc une réserve d'eau d'urgence, mais qui était vide. En fait, c'était de la boue qui restait au fond du truc. Heureusement, juste avant, j'avais trouvé un peu de boue avant d'arriver au refuge, en grattant un peu du reste de neige, de glace,
Ouais,
que
putain,
j'ai pu
ouais.
me faire fondre. Donc l'eau était dégueulasse, hein, mais je l'ai fait bouillir et je me suis fait un petit thé avec. Et
Du thé
en
à la boue,
arrivant,
du thé à la boue. Mais
voilà.
tu sais que je. Tu sais, hey, est-ce que c'était pas un des meilleurs thés que t'aies jamais bu? Sans déconner.
Et puis je me suis filmé en train de le déguster en plus, et j'étais là, j'ai regardé les images il n'y a pas longtemps, et j'étais vraiment en extase devant cette petite tasse de thé debout.
Non, mais c'est en fait, c'est on le dit, enfin, je le dis souvent, c'est plus tu galères pour avoir quelque chose, aussi simple que ça puisse être, ça aura 10 fois plus de goût et t'auras 10 fois plus d'adrénaline que le plus beau des cadeaux fancy que t'as juste en claquant des doigts en fait. Parce que là, on parle d'un cadeau quand même où t'as plus à boire quasiment depuis un jour et demi. Là, c'est ta survie. Donc le cadeau de la boue, tu t'en fous. Vas-y, envoie. Je fais bouillir, j'enlève les bactéries, j'enlève les virus, je fais un peu bouillir et terminé. Bonsoir quoi. Le thé à la menthe à la boue, c'est un concept qui à ce moment-là marche super bien. Ça marche
Complètement,
super bien.
je recommande.
Ah ouais, je suis. Écoute, merci pour cette super aparté. Parce que je voulais pas te couper dans cette anecdote. Je me dis, on peut pas y revenir. Il faut te laisser y aller, tu vois. J'aimerais qu'on revienne justement sur l'équipement. Pour justement, quand on fait face à ce genre de situation, bah encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un risque. On n'est pas à l'abri d'un changement de climat, d'un changement de conditions. Mais on peut mettre toutes les chances de son côté avec un bon équipement. Qu'est-ce que tu avais comme équipement? Parce que là, dans la partie prépa, on a compris que et l'itinéraire était important, et de bien comprendre l'environnement, d'absorber les connaissances du milieu, que ce soit l'Islande, mais ça marche aussi ailleurs, hein, sur des conditions un peu compliquées. Ça, c'est fait. Maintenant, sur la partie matérielle, vraiment ce qu'on appelle vraiment le matos, avant de mettre vraiment de ce que tu vas mettre dans ton sac à dos, mais vraiment du matos technique, tu avais quoi?
Alors donc le matériel, c'était le plus important aussi. En fait, si c'était le matériel, c'est ce qui allait compenser mon inexpérience, entre guillemets.
Yes.
Le plus important dans le matériel qu'il fallait prendre, c'était un, le sac de couchage. C'est son seul cocon, sa seule carapace face à l'extérieur. Vu que je disais que on voulait très vite partir d'hypothermie dans des conditions comme ça en Islande. Donc j'ai pris donc le duvet qui était recommandé, j'avais pris un moins 20 degrés, je crois,
Ah ouais, d'un truc
moins 15,
énervé.
moins
OK.
20. Donc un truc énorme, sachant que, bon, malheureusement, heureusement, entre guillemets, il a fait chaud pendant le mois où j'étais. Normalement, c'était ce genre de duvet qu'il fallait prendre quand même au cas
Ok,
où. Et
d'accord.
le problème que j'ai rencontré avec ce duvet, c'est que bah, du coup, j'avais trop chaud parfois la nuit.
Ah
Et
merde.
donc, je me réveillais en nage.
Ah merde.
Et comme je disais que le but, c'était pas d'être trempé, voilà, j'ai eu des complications à cause de ça.
Ah merde, parce que du coup, ouais, le fait d'être mouillé, ça faisait que tu pouvais aussi. Ça gelait peut-être la journée, ou après tu. Ok, c'est pas bon non plus, quoi. Je
Non.
sais que dans les périodes, dans les lieux de grand froid que j'ai moi très très peu pratiqué, des feedbacks que j'ai, tu vas me le confirmer, je dis, il faut avoir plusieurs layers, plusieurs couches pour vraiment éviter, pour pouvoir les enlever et les remettre en fonction de la température, pour surtout éviter au maximum de transpirer. La transpiration se transforme très vite en glace ou en plaque de froid à l'intérieur, et quand il fait du. Moi je te parle du moins 10, moins 20, notamment, c'est des amis québécois qui me disaient ça, c'est. Faire très attention à sa sudation, ça paraît tout con, mais c'est important. Donc, ok, essayez d'adapter. Bon, t'as pas eu de bol, toi, en même temps, t'avais pris le bon duvet, mais la température était pas celle que t'attendais. Qu'est-ce qu'il y
C'est
avait
ça.
d'autre?
Donc il y a le duvet, ensuite évidemment la tente. Donc les vents peuvent atteindre plus de 100 km/h par endroit en
Ah
Islande.
ouais, ok.
Donc c'est très très fort, donc il
Donc,
faut
c'est
une
pas la
tente qui soit
Quechua
assez
deux secondes.
résistante.
C'est ça, c'est
C'est
pas la.
ça.
Ok.
Sachant
Là.
que j'avais une tente fort classe,
Ok.
donc c'était une nouvelle tente qu'ils avaient sortie pour une personne qui
Ouais.
résistait énormément au vent,
Ouais.
et ça a fait l'affaire. Donc
Ah,
ils
big
font
up
des
à
bons produits.
D4. Big up à D4. Non, non, mais j'aime D4. C'est le Ikea du sport. Ça rend accessible des trucs super pointus à des prix, bah, encore une fois, plus accessibles. Donc, ça marche. Ça a été un putain. Bah,
Ça marche très
j'espère qu'ils te
bien.
l'ont filé, la tente, putain.
Ouais.
Ah, cool. Bah, cool. Non, mais
Beau
c'est
cadeau.
bien. Beau cadeau.
Donc, il y avait le sac de couchage, la tente. Évidemment, il y a le tapis de sol qui va isoler le sol, la température du sol avec son duvet et son corps. Parce que malheureusement, bah, le duvet, en fait, n'isole pas bien. Si on ne peut pas mettre son duvet directement sur le sol, il faut ce tapis qui soit très isolant. Et le problème, c'est que moi, après ces problèmes de sécheresse, je suis tombé en pleine tempête justement, et mon duvet a pris l'eau. Et en fait, pendant plusieurs jours, j'ai dormi sur un duvet en fait à plat. Donc c'est pas très confortable, mais au moins il est là pour isoler avec le sol.
Attends, mais ton tapis de sol, il est où? Je comprends pas.
Mon tapis de sol, enfin mon lit gonflable, mon tapis de
Ouais.
sol, il est sous moi. Le problème, c'est qu'en fait, en montant ma tente sous l'averse, la tente a pris l'eau. Ça, c'était un gros souci. D'ailleurs, que j'ai dû vider avec ma petite tasse.
Ah
En
oui.
dehors de. Ouais.
Ah, t'as été arrivé des petites galères, dis donc, là.
Ouais.
Attends, tu montes ta tente, il y a de l'eau dedans? Et
Non.
du coup, bah, tu vas pas ressortir pour mettre ta tente un peu à l'envers, parce que en fait, c'est des tentes qui tiennent pas toutes seules. Ça tient avec des piquets, en fait.
Ah oui, il faut prendre. Il
Donc,
y a
tu
du temps à monter la tente.
vois. Ouais, c'est pas des piquets qui, enfin, c'est pas des tentes qui se tiennent en armature seule, c'est-à-dire elles tiennent pas debout toutes seules. Elles tiennent que si tu arrives à mettre un piquet dans le sol pour justement bien résister au vent. Mais ça veut dire que tu pouvais pas genre te sortir, hop, la lever, la secouer, enlever l'eau. Non, t'étais obligé d'être dedans pour que ça tienne.
C'est ça.
Et putain, attends, mais attends, que je comprenne. Alors, moi, j'aimerais juste faire une petite aparté sur le tapis de sol. Et ça, c'est une petite dédicace à un poste de Dimitri Eledge qui m'avait emmené bivouaquer, qui m'avait aussi, comme tu le disais si bien, bien dit l'importance du tapis. Ça n'a rien à voir un duvet qui va à moins 20 si t'as pas un tapis de sol, en fait, qui t'isole du sol. Parce qu'en gros, ton corps est conducteur et le tapis va être conducteur ou isolant. Donc, si tu prends ton petit tapis de yoga, ça va rien isoler et en fait ton duvet va te servir à rien. Mieux vaut un très bon tapis de sol, et parce que ça coûte un peu cher quand c'est souvent dégonflable. En fait, quand on dit un bon tapis de sol, c'est des tapis de sol qui vont être avec de l'air, parce que le meilleur isolant, et ça on le sait pas, c'est comme dans le double vitrage, c'est l'air. C'est l'air que tu mets entre deux matières, entre deux couches. Et du coup, mieux vaut un très bon tapis et un moins bon duvet que l'inverse. Voilà. Et là, tu te retrouves avec 5 cm de flotte dans ta tente. C'est pas drôle, c'est chiant. Moi, j'aurais pas aimé que ça m'arrive. Mais hop, t'as mis ton tapis de sol, qui est finalement devenu un matelas gonflable, hein, parce que du coup, enfin, un matelas flottant un peu que tu mets sur ta
C'est
piscine.
ça.
Et t'as mis ton duvet par-dessus, parce qu'en fait, il était trempé, que si tu te mettais dedans, t'étais dans l'eau, en fait. C'est un peu ça.
C'est ça. En gros, j'avais
C'est
que
nul
deux
comme
caleçons.
situation. Oh, c'est nul comme situation,
Donc
putain.
je m'en suis servi d'un caleçon que je venais de laver en plus et qui séchait. Bah, je l'ai utilisé comme éponge pour essayer d'éponger un maximum. Donc voilà l'utilisation du deuxième caleçon. Et à
Que
côté, bah,
tu
j'ai
as
vidé le
remis, évidemment,
maximum.
après. On le sait que
Ah
tu
bah
l'as
oui,
remis. Il n'y
attends,
a pas de. Je vais le
bien
passer à la
trempé.
machine. Non, non. Le lendemain, il était remis avec des petits cailloux entre les coucougnettes, parce qu'on a oublié d'enlever les graviers. Hein, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'aventure. Ouais, donc tu t'en es servi pour éponger à mort. Sauf que, en gros, tu as dû dormir habillé sur ton duvet tout mouillé. C'est un peu ça?
En gros, c'est ça. En plus, avec les parois collantes qui, ah, avec le vent, ah, j'ai mal mis certains piquets et la tente s'est un peu détachée, donc la paroi collante qui m'était collée dessus.
Est-ce que ça fait comme quand t'es dans la douche et que tu sais pas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient te le mettre, le rideau de douche un peu collant sur la gueule et c'est désagréable sur la peau?
Exactement. Ah non. C'est le même effet. Ah, sauf que c'est toute la nuit.
Ah putain, c'est chiant. Attends, oh là là, mais ça veut dire comment t'as... Du coup, ça a pas séché tout ça. Et puis attends, technique. Est-ce que t'as... parce que pour t'isoler de ton duvet, si ton duvet il est trempé et que t'as tes habits qui sont quand même pour le moment pas trop trempés parce que t'avais un anorak ou des vêtements qui allaient bien, t'as mis une couverture de survie pour t'isoler de tu t'es couché sur le truc humide. T'as fait comment?
Alors c'est exactement ce qu'il fallait faire, mettre la couverture de survie. Moi, sur le moment, j'ai pas du tout pensé. J'ai mis du moment qu'il y avait mon tapis de sol qui était qui recouvrait les parties un peu humides où il y avait de l'eau, ça m'allait. Tant que le duvet n'était pas trempé, moi ça m'allait. Mais effectivement, c'est une solution, c'est de mettre la couverture de survie en dessous.
Voilà. Ah, tu vois? Des bons réflexes. Les gars, une couverture de survie, je crois que ça coûte entre 3 et 4 balles. Hein. Enfin, 3 à 5 balles, donc et ça pèse que dalle. Ça a l'air de rien. Et ça a l'air vraiment de rien. Quand il t'arrive aucune galère, tu dis pourquoi j'ai pris ce truc-là. Mais t'inquiète, que le jour où t'es en galère ou t'es isolé, t'es bien content de sortir ton truc à 5 balles. Ok, donc aussi, duvet, tente, tapis de sol, tout ça, c'est super important. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments techniques que t'avais qui ont été, je pense à peut-être une gourde filtrante ou pas, même pas, ou un filtre? T'avais pas ça?
Alors, en fait, j'aurais dû prendre une paille filtrante au vu de la situation. Voilà, ça c'était un des premiers regrets. Mais en fait, en Islande, toutes les sources d'eau sont potables. C'est, on peut la boire sans la filtrer.
Ok, ce qui est très rare dans le monde, il faut le dire.
Exactement. Donc c'est de l'eau pure. Il y a des moments même à la fin où je me mettais à genoux et je remplissais même pas ma gourde, je buvais directement à l'eau de la rivière comme un animal. Il n'y avait pas de souci là-dessus, il fallait juste faire attention aux odeurs, parce qu'il y a parfois des sources de soufre. Mais tant que l'eau était claire, sans odeur, on pouvait la boire. Évidemment, en fait, dans cette région, j'ai mal calculé en fait, ma réserve d'eau. Et normalement, j'avais un camel bag pour le rendre un peu plus d'eau dans cette situation-là.
Combien de litres?
Sauf que je crois que c'était 4 litres, le camel bag que j'avais derrière. Et en fait, dans cette situation, donc, j'en ai pas encore parlé, mais en fait, pour... contrer, parce que je voulais absolument aussi réaliser un film de ma traversée, une sorte de reportage sur les effets, sur ce que j'allais ressentir par rapport aux effets du réchauffement climatique sur les glaciers, et aussi évidemment de ma traversée, de toutes ces problématiques que j'ai rencontrées. Et j'ai deux amis en fait qui m'ont suivi directement sur le terrain, que je vais appeler équipe technique, et qui étaient censés eux me filmer de plus ou moins loin. Le problème, c'est que dès le premier jour, gros souci avec la voiture, où ils essayaient de me suivre un peu pour filmer en drone. En fait, la voiture passait pas. Les routes n'étaient pas du. On essayait de prendre une voiture la plus qui consommait le moins. On a pris
une Twingo. On n'a pas compris pourquoi le 4x4 ne passait pas, quoi. Enfin là, la Twingo, elle a pas fait l'affaire.
Donc, c'était un 4x4, mais en fait, c'est des 4x4 lunaires qui consomment énormément, qu'ils utilisent pour se rendre au centre.
Ouais, c'est des gros Land Rover que t'as même pas vu en dehors de l'Islande. C'est des trucs énormissimes qui traversent les rivières. C'est énormissime, les gros, leur 4x4 là-bas. Donc ta petite Twingo, à mon avis, ils ont rigolé, je pense. Bah non, elle est pas passée.
Donc ce petit 4x4 qu'on avait, au final, on a tout de suite laissé tomber. Et donc en fait, pour revenir au début du périple, je sais pas si on va revenir dessus après.
On verra, je pense que oui. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un inventaire de ce que t'avais dedans, en fait. Et j'essaie de m'y tenir, mais il y a des petites anecdotes, je suis obligé de te laisser les dire. Mais,
pas de soucis.
Mais j'aimerais bien qu'on savoir ce que tu mets dans ton sac, vraiment, pour que les gens partent safe, ou en tout cas mettre le maximum de choses de leur côté.
Ok. Et du coup, ce camel bag, en fait, le poids du sac était beaucoup trop important. Et il y a un moment où, quand je suis arrivé à mon premier camp de base, qui est au-dessus du volcan Asgja, où j'ai pu recroiser du coup des rangers et l'équipe technique à ce moment-là, j'ai décidé de laisser mon camel bag et je me suis dit plus jamais. J'avais super mal à la jambe gauche sur le muscle du psoas, je crois qu'on dit.
Te la raconte pas, personne ne connaît ce muscle.
Moi je le connaissais pas aussi, j'ai eu du mal à trouver le terme à chaque fois. Et j'ai décidé de laisser mon camel bag en sachant que les jours auparavant j'avais déjà réussi à tenir avec juste 2 litres d'eau pendant plusieurs jours.
Ah oui.
Je me suis dit ça va suffire.
2 litres d'eau
Enfin plusieurs jours, pendant 2 jours. Ouais. Et le truc, c'est que je ne m'attendais pas à ce que déjà le refuge n'ait pas d'eau. Et en plus, le moment avant de la traversée de ce gué, le paysage était vraiment désertique. C'était vraiment, en fait, j'ai traversé un désert de sable à ce moment-là. Et jamais je me serais dit que ça allait être aussi éprouvant physiquement, en fait, ce sable avec des vents violents, en fait, que je me prenais en pleine face, donc qui me asséchait encore plus la bouche. En plus, je m'enfonçais dans le sable, donc ça me prenait encore, il y avait encore plus d'efforts physiques. Et donc ça, les journées étaient très ensoleillées, enfin très ensoleillées pour l'Islande, donc
Ouais,
c'est
mais
plutôt sec et chaud. Et en fait, j'ai vite perdu, je me suis vite déshydraté en avançant dans ce désert. Donc en plus, je me nourrissais que parce que normalement j'avais de la nourriture lyophilisée, et à ce moment-là, je me nourrissais que de saucissons secs et de parmesan que j'avais à côté. Truc qui te donne encore plus.
génial.
Voilà.
Alors moi j'ai mangé une brique de sel parce que j'avais pas beaucoup d'eau. Du coup voilà, c'était
Voilà.
top. Enfin,
Ouais,
super.
je pouvais pas du tout utiliser l'eau pour les nourritures lyophilisées, j'avais que ça à côté. Donc en fait, c'était perdu d'avance, entre guillemets. Et en plus, à un moment, quand j'ai commencé à apercevoir de loin les ramifications justement de cette fonte du glacier, je me suis dit, mais attends, il y a de l'eau qui coule de loin. C'est
Génial.
forcément de l'eau potable, c'est pas possible, on m'a menti. Et donc j'ai bu plus qu'il n'en fallait avant d'arriver en courant devant
Ah,
cette
je vais
eau.
aller remplir ma gourde dans la boue.
Ouais, et quand j'ai vu que cette eau boueuse, qui était même bouillie, en fait, on ne peut pas la boire, c'était hors de question. Donc une paille filtrante, ça aurait pu m'aider, sachant que les personnes que j'ai retrouvées dans le refuge Adreki, là, en plein centre de l'Islande, eux avaient une paille filtrante, mais ils étaient dans la même situation que moi, parce que ça prend beaucoup de temps à filtrer, tant que parfois on n'a pas trop, parce que chaque journée est chronométrée. Si on loupe une journée, c'est une journée de nourriture en plus qu'il faut. Donc ils étaient arrivés en avance dans ce refuge. Et ils avaient pu donc filtrer un peu d'eau. Ils avaient passé plusieurs heures dessus. Ils avaient filtré avec une taie d'oreiller, du PQ et la paille filtrante pour être sûr.
Ah
Et
oui,
à
ce
la
que je veux dire, leur
fin.
paille filtrante, elle est un peu pourrave s'ils sont obligés de prendre du PQ et une taie d'oreiller.
Pas de risque. No
Ah,
risk.
ok. Safety first, safety first.
Exactement.
Putain.
Donc ça,
Ok,
c'est
donc
quelque chose à prendre.
t'en avais pas, mais tu t'es dit, il aurait fallu clairement en prendre. Est-ce que, du coup, t'avais un
Voilà.
réchaud pour avancer un
Voilà.
peu sur l'aspect technique, t'avais un réchaud aussi. Gaz.
Donc réchaud, gaz qu'on achète directement sur place,
Ok,
donc
d'accord.
l'avion
Ah,
paye
le
pas.
réchaud, tu achètes sur place ou
Le gaz.
le gaz, ok. Mais t'avais déjà le type de réchaud. Top. Est-ce que t'avais aussi d'autres, j'irais vraiment, éléments purement techniques? Ou après, c'était vraiment deux t-shirts, deux caleçons, du mérinos, etc. Ou t'avais encore d'autres objets un peu précis?
Alors j'ai pris des vêtements assez techniques. Ce qui est important, bah justement, avec le poil de mérinos, c'est que ça peut, au niveau de la sueur, il faut des vêtements qui soient assez
Respirant.
légers, mais qui respirent exactement. Comme tu disais tout à l'heure, il faut privilégier plusieurs couches qu'une couche épaisse. C'est ça qui va vraiment garder la chaleur. Mais sinon, le plus important, voilà, c'était la tente, le duvet, le tapis. Évidemment, il y a la nourriture lyophilisée à côté pour se
Alors c'est ça
nourrir.
aussi. Là, t'es parti 15 jours sans pouvoir te ravitailler de nourriture, on est d'accord?
Alors le ravitaillement justement, c'est, je l'ai donné en fait la responsabilité à l'équipe technique qui
Ah
m'a suivi
merde.
là-bas.
Ah putain, mais attends, mais ils t'ont suivi ou ils t'ont pas suivi avec la Twingo du coup?
Alors ils m'ont pas suivi, mais ils ont pu en fait pendant le trajet, quand je suis arrivé par mon premier camp de base, faire le tour de l'île pour déposer de la nourriture à ce camp de base.
Ah ouais.
Ensuite pendant 6 jours plus de nouvelles. Ensuite ils ont redéposé de la nourriture sous un rocher, un endroit accessible en véhicule. Et en fait c'est comme ça qu'on a avancé tout du long.
Ah, et du coup, t'as eu combien de fois de ravitaillement? T'as avancé par 5-6 jours à chaque fois? À peu près?
J'ai eu 3 ravitaillements.
Ok.
Voilà.
Et ça équivaut à combien? Ah ouais, donc est-ce que tu penses que c'est possible de le faire sans ravitaillement? Enfin, de le faire en prenant toute la nourriture d'un coup?
Alors c'est possible, mais pas quand on débute. C'est beaucoup plus complexe parce que il va falloir beaucoup plus être exigeant sur les rations qu'on va emporter. Donc il faut vraiment connaître son corps, sur savoir exactement dans ces circonstances-là ce dont a besoin son corps.
Bien sûr.
Et la plupart en fait des personnes qui traversent l'Islande, eux, se font ravitailler en fait dans des refuges, c'est-à-dire que dans certains refuges, ils demandent à la sécurité,
D'accord.
ils préviennent en disant voilà, on aimerait bien être livré tel jour à tel endroit. En fait, un peu comme ce qu'a fait mon équipe technique, sauf qu'en passant par des locaux. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Sinon,
Ah,
c'est
ok,
très
d'accord.
compliqué de.
Parce que juste en ayant 4-5 jours de ravitaillement, ta flotte, ton équipement, t'avais combien sur le dos?
En poids, là, je pourrais pas dire, mais je crois qu'on était à un moment à peu près 16 kilos.
Ouais, 16 kilos, ça pique un peu quand même.
Ouais.
Toute la journée sur le dos, 16 kilos, ça commence à piquer, surtout quand tu commences à monter un peu des volcans, des trucs comme ça. Ok. Du coup, la partie technique est terminée. Et c'est, on l'a terminée. Mais, et justement, j'aimerais qu'on arrive vraiment à ton aventure. Et surtout, j'aimerais que, bah, de la même façon que tu t'as fait des petites parenthèses durant ce brief technique, j'aimerais qu'on puisse un peu mettre, tu vois, un casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et que tu nous emmènes avec toi dans ton périple. Là, on est le premier jour. On est à quelle ville? On est au nord, on est au sud. Ça ressemble à quoi? Emmène-nous. Vas-y, Père Castor. Raconte-nous un petit peu ton histoire, toi.
Let's go. C'est la barbe qui fait Papy Castor un peu?
Bah, Père Castor, j'ai pas dit papy, t'as vu, je suis pas allé
Non.
au delà.
Alors, let's go pour le voyage en Islande, du coup. Donc, on est arrivé. Donc, justement, j'étais accompagné de Pierre et de Nicolas, deux amis à moi que j'ai rencontrés pendant mes voyages et qui ont bien voulu me suivre jusqu'en Islande, au moins, pour devenir l'équipe technique, pour être rassuré sur le fait qu'il y avait quelqu'un sur place, ce qui allait en fait. Cette peur que j'avais avec mon inexpérience, au moins j'avais la sécurité d'avoir une équipe technique qui soit quelque part.
Mais c'est con, mais attends, mais ton équipe technique, ça passait le téléphone en plein milieu du désert?
Non, du tout. Justement, ça passe pas. Alors moi, j'avais en fait un. Donc ça, on peut d'ailleurs le rajouter dans l'équipement, mais c'est pas indispensable, mais ça aide beaucoup. J'avais une balise GPS qui en fait envoyait. C'était un
Ah.
SpotX qui envoyait
Ta position.
voilà, toutes les heures, tous les 30 minutes, on peut le régler, ma position à l'équipe technique. Donc eux recevaient des nouvelles de moi par ce
Ta
GPS.
position, ok.
Par contre, j'avais aucun moyen de pouvoir les appeler, etc.
Ah, ok, d'accord. C'est quoi la marque de ça? C'est Spotix, c'est ça?
SpotX, ouais.
Ok, très bien. Une balise GPS, très bien. Donc, il y a tes deux potes qui sont là, ils sont chauds, ils te disent, bon, vas-y, mon grand, parce que maintenant, t'es mignon, hein, on a préparé tout ça. Yalla, c'est parti. Tu pars de Reykjavik ou tu pars du Nord?
Alors j'ai atterri à Reykjavik
Ouais.
et du coup on est monté jusqu'au point de départ qui se retrouve tout au nord de l'Islande, qui s'appelle
Combien de temps?
Mývatn.
Combien de temps de route? Je m'en rends pas
Je
compte.
crois qu'il y a eu 4 heures, 4-5 heures de route.
Ah, ça va! Putain, tu fais le tour, en fait, tu fais le tour distant en 10 heures, quoi, un truc comme ça.
10 heures, je ne saurais pas dire, mais c'est pas immense quoi.
Ok, d'accord. Donc,
On va dire que
4-5
là,
heures pour retrouver le nord de l'île.
c'est ça. Sachant
Pour.
qu'on a dormi, entre deux, parce qu'on est
Ouais.
arrivé, je pense, vers 16-17 heures.
Ok.
Donc, on a dormi entre deux dans une petite ferme. Et le lendemain matin, de bonne heure, on est arrivé jusqu'à Mývatn. Je crois qu'on est resté une journée à Mývatn, je ne sais plus trop.
C'est pas très grave.
Ouais. C'était pas vraiment les moments que j'ai retenu le plus à ce
J'imagine.
moment-là. Donc, il y a à peu près 400 km du nord au sud. Enfin, j'ai marché 400 km.
Ok. En
Donc.
pleine pampa en plus, putain, c'est vrai que c'est
Ouais.
400 km, c'est pas sur. C'est pas les petits chemins de halage le long du canal du Midi, quoi, tu vois.
Non, sachant qu'on peut marcher 400 km en France, je pense aussi.
Ouais, bon,
Il y a de très
très,
grandes.
très,
Mais.
très facilement. Du coup, t'es là, tu t'apprêtes à partir, et ça commence par quoi comme décor?
Alors en fait, je me rappellerai toujours de cette impression que j'ai eue quand je suis arrivé au point de départ, à Mývatn. C'est en fait, il y avait encore quelques maisons, quelques fermes, quelques habitations. Et d'un coup, tout s'arrêtait. Il n'y avait vraiment plus rien, plus aucune habitation, plus de végétation, plus rien. On avait l'impression de changer de planète à des kilomètres à la ronde. Et la vue était super dégagée quand on est arrivé. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être un peu comme on va sauter à l'élastique, juste avant en fait, de sauter à l'élastique, cette
Ouais.
sensation de je vais aller là tout droit. Tout droit dans cette espèce de désert. Et il y avait juste deux points de vue au loin. Il y avait deux espèces de montagnes un peu de forme carrée, je me rappellerai toujours, qui pendant plusieurs jours en fait vont rester dans ma ligne de mire parce que je me repérais grâce à ces points de vue justement.
OK.
Et encore plus loin, en petit, je voyais une chaîne de montagnes enneigées. Et ça, c'était le premier volcan que j'allais grimper, qui est Askja. Et je me disais, putain, en fait, dans 3 jours à peu près, 3-4 jours, je serais tout là-bas, en train d'escalader le volcan. C'était assez effrayant.
T'avais une moyenne de combien de temps, de combien de kilomètres par jour?
Je faisais à peu près 20 km,
Ah
enfin
ouais.
25 km, sachant qu'il y a des journées à 30 et il y a une journée que j'ai fait à plus de 40 km
Ah ouais,
aussi.
d'accord. Ah ouais, ok. Donc plus cette appréhension, cette peur, tu vois, cette peur avant de démarrer. Et t'as hésité ou pas? T'as eu ce moment où t'as regardé tes potes, tu vois, je sais pas si j'y vais. Tu leur as dit ou t'as gardé ça pour toi?
Non, je l'ai dit.
Ah ouais, ok, d'accord.
Je l'ai dit, ouais. Et
Bon,
en
bah en
plus, mon
fait, on a
pote me
préparé ça
filmait.
pour rien, les gars. Non, en fait, c'est une mauvaise idée. Je le sens pas. Laisse tomber.
Ah non, ouais, franchement, à ce moment-là, j'étais waouh. Et du coup, bah, au début, on pensait que au moins le 4x4 allait pouvoir suivre de loin, parce que ça me rassurait, le fait de les avoir à côté, de loin, même s'il allait y avoir aucune interaction. Pour le film, Pierre avait commencé un peu à me filmer et me poser quelques questions. Et je disais, non, mais là, en vrai, je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. Je vais me retrouver en plein milieu de là-bas, je vais me perdre quand il y aura du brouillard. Je commençais à me remettre en cause, mais en même temps, j'étais ultra excité. C'était une peur, en fait, qui est aussi excitante parce qu'on se lance complètement dans l'inconnu. Et généralement, quand c'est comme ça, je sais que, comme quand je pars voyager sans itinéraire, je sais qu'en fait, à la fin, tout ce noir qui est dans notre tête, qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, et ben, ils se remplissent de choses, on ne s'attendait même pas à ce qui allait arriver. Et c'est ça qui m'excitait le plus,
Dans
là, à
cette
ce
aventure.
moment-là, dans ce départ.
Putain, ça t'excitait, mais ça te faisait un peu, un peu flipper, putain, quand même.
Ah oui, ouais, certainement, oui. Je flippais,
Et
mais
qu'est-ce qui fait, ah,
c'était
qu'est-ce
quand
qui
même
fait,
excitant.
alors c'est con, mais qu'est-ce qui fait que tu t'as surpassé ça? Parce qu'il y a un moment, ça te, tu sais, des fois, on dit souvent, bah, c'est ce qui nous pétrifie, c'est la peur, mais la peur, c'est pas quelque chose de palpable. La peur, c'est pas, c'est uniquement dans notre tête. C'est quelque chose qu'on se crée, la peur. Qu'est-ce qui a fait que t'as dépassé ça?
Bah, le fait de me dire déjà que j'étais sur place, en fait, quand on se lance dans une aventure comme ça, où on se prépare autant, on n'a pas le droit de... Jamais je me suis dit, en fait, je vais abandonner. Là, je suis arrivé jusque-là, j'ai travaillé pour, j'ai pris des précautions, je me suis bien préparé. J'ai peur, c'est normal, je m'attendais en fait à avoir peur. Mais en fait, c'est comme quelque chose qui disait, non, Mathis, tu peux pas abandonner, t'es arrivé jusque-là. Ce serait un gros échec si tu abandonnais. Et si, en fait, ce qui fait peur, c'est l'échec, et j'ai pris des précautions, j'ai essayé de prendre le plus de précautions
Bien
nécessaires
sûr.
pour éviter, enfin, pour rebondir en cas d'échec. Donc je me suis dit, voilà, maintenant, s'il y a un échec, au moins tu auras essayé, mais fonce, vas-y et
Et donc tu pars.
tu...
Tu
Ouais.
pars. Et comment ça se passe finalement, bah, le premier jour, les premiers jours, j'imagine qu'en plus t'as encore de l'énergie, t'es pas encore esquinté. Finalement, là, j'imagine que ta jauge de kiff, elle est en train de remonter en flèche à partir du moment où t'as réussi à faire le premier pas et de briser un peu cette peur qui pétrifie au début.
Alors je me rappelle la première journée, j'ai versé une petite larme.
Oh
En fait, quand
putain!
je me suis rendu compte, ouais,
C'est beau ça!
j'ai versé une larme quand je me suis rendu compte que j'y étais. En fait, c'est ton projet,
Yes!
c'est ton bébé. Ça fait un an que tu le prépares. Et là, je suis parti, je commence à avancer, j'avance, j'avance. Et en fait, je me retrouve en plein milieu de rien. Donc il y a encore un peu de végétation à ce moment-là, il y a encore un peu d'herbe, il y a encore des signes humain, de traces de vie humaine, parce qu'on a encore ce sentier que je suis, qui est sur la map, qui est deux traces de pneus, des fermiers qui passent par là. Et en fait, quand je me retrouve ici, avec cette petite montagne que je suis depuis plusieurs heures, je me dis, c'est bon quoi. J'ai pensé que à la préparation jusqu'à ce moment-là, et en fait, là, je suis en train
Ça
de
y est, t'y es quoi,
réaliser
t'es en
ce petit
train de le
rêve.
vivre,
Ouais.
ouais, bien sûr.
Et c'est la première et dernière larme de bonheur. Parce que après, ça va être plus des larmes de souffrance, du coup. Mais c'était un moment que j'oublierai jamais. J'étais là, mais j'étais encore en forme. Et en fait, il faut savoir que dès que je suis parti, dès que j'ai commencé à avancer, j'ai eu les quelques minutes, 10 minutes après avoir commencé mon périple, premier souci, l'équipe technique, en fait, avec la voiture, en essayant de sortir un peu du sentier, paf, ils pètent la carrosserie, parce que les roues, évidemment, n'étaient pas assez hautes. Et ils sont obligés de faire demi-tour pour aller au garage. Et sachant qu'ils avaient, en fait, moi j'avais pris 2 jours de ration en me disant qu'au moins au début, ils allaient suivre pour savoir si tout va bien et je prendrais le reste des rations après. Donc ils ont fait demi-tour, ils sont partis sachant qu'il n'y a aucun moyen de communiquer et on se dit, bon, bah, vous me rattrapez sur la route ensuite et vous me donnez le reste de la bouffe. Ça ne se passera pas du tout comme ça, sachant que ce sera la dernière fois en fait que j'aurai contact avec eux avant plusieurs jours. Et donc, je continue à avancer. Et en fait, j'atteins mon point 1, l'endroit où je devais camper le premier jour, à 13 heures. Je me dis, en fait, parce que en forme, j'étais excité, donc j'ai marché très vite.
Ouais.
Chose à ne pas faire, première erreur, prendre son
Ah.
temps.
OK.
Et j'arrive en fait à 13h à ce point-là, et je me dis, bon, bah super, je vais continuer et je vais aller jusqu'au point 2, gagner une journée, aller jusqu'à, parce qu'il y avait un refuge à ce moment-là. Donc je continue. Les paysages petit à petit commencent à perdre leur verdure. Je commence à voir une terre un peu plus noire avec quelques végétations un peu rougeâtres. C'est assez bizarre. Je me croyais vraiment sur la lune. Plus en plus sableux, rocailleux. Et à un moment, en fait, je commence à rentrer dans un immense champ d'anciennes laves. C'était super beau. Cette lave, on voyait que ça avait coulé et ça faisait des espèces de vagues, comme une mer
Ouais,
noire, mais dans la
figé.
roche. C'est ça. Ça, c'était impressionnant et c'était ça à perte de vue. Donc, ça montait, ça descendait avec une espèce de petites fissures, des cratères aux endroits où ça s'est fragilisé. Et parsemé de blocs de roches, on voyait que c'était des blocs qui avaient dû tomber du ciel et qu'il y en avait un peu partout autour. J'avance, donc j'ai croisé mes derniers moutons quelques heures auparavant. Je me suis d'ailleurs, je leur ai commencé à. Parce qu'ils fuyaient et je pensais que. J'ai un peu blagué, je commençais à me sentir en me disant, un premier jour, je commence déjà à puer et je fais fuir les moutons, quoi. Les seuls êtres que j'allais rencontrer pendant
Eh
quelques
ben tu
kilomètres.
vois, le dernier être avec qui t'as communiqué sur son barré, il n'y a même pas eu un petit au revoir, un petit clin d'œil, que dalle.
Non, rien.
Ah
Ils ont
bravo.
fui.
C'est salaud.
Et donc j'arrive à mon point 2 en me disant que j'allais retrouver enfin l'équipe technique, parce que ça faisait quand même toute une journée que je les avais laissés. Évidemment, personne. Donc là, c'était ma première peur, c'est en fait, il me restait encore 2 jours de nourriture, parce que j'avais sur 3 jours de nourriture à peu près, en rationnant. Et jamais j'aurais pu faire en fait ce que je venais de faire en une seule journée, c'était beaucoup, j'avais beaucoup trop fait pour la première journée. Donc, je savais que là, il y avait deux solutions, parce que j'avais aucune nouvelle de l'équipe technique, il me restait plus que 2 jours de bouffe. Donc, je me suis dit, soit je continue et dans 2 jours, j'atteins le volcan Asgja, là-bas, il y a un camp de Rangers, j'espère qu'ils vont faire le tour et me rejoindre à ce niveau-là parce qu'il y a un accès si on fait le tour de l'île. Ou alors, en fait, je prends pas le risque, j'abandonne et je me reprends mes 2 jours pour revenir en arrière et savoir ce qui se passe. Parce que ce n'était pas du tout prévu dans le plan. Je commençais déjà à subir en fait les conséquences de cette première journée où j'ai fait le con à trop marcher. Donc déjà, lever ma jambe gauche, ça commençait à être douloureux. Je sentais beaucoup plus le poids du sac. Et dans ma doudoune, en fait, quand je suis arrivé, tous mes muscles sont relâchés, étaient frigorifiés. Quand je suis arrivé dans ce gîte, j'ai dormi tout habillé dans mon duvet à moins 20. Ce qui fait qu'en pleine nuit, je me suis réveillé tout transpirant. Et déjà, il y a eu plein de choses qui trottaient dans ma tête à ce moment-là. Et je me réveille tout en nage et je me dis, c'est bon, j'ai chopé une connerie, un truc. Je commence à faire des rêves bizarres déjà cette première nuit en me disant, en fait, je rêvais que j'appuyais sur le bouton SOS
Ah ouais.
de mon petit GPS à ce moment-là. Le lendemain, ça va mieux. Je décide de continuer. Et là, en fait, je me jure, je me dis, en fait, c'est ce sac est trop lourd. Il faut que je me vide en arrivant au camp de Reiki. Et c'est là où j'avais pris la décision, en fait, de
De
lâcher
prendre
au
moins
moins le
d'eau.
camelbag.
Ok.
Voilà.
C'est vrai, parce que le truc qu'on a le moins besoin quand on est en survie, c'est de l'eau. Donc c'est super
C'est
bon
l'eau,
réflexe.
exactement. Mais au moins moins d'eau que ça, quoi. Et donc je continue, je marche une première journée toujours dans ces mêmes paysages assez rocailleux, où il y a quasiment enfin, très peu de végétation, c'est beaucoup de sable noir et de roches. Donc là, je laisse derrière moi cette espèce de petite montagne aux formes carrées que je suivais le premier jour. Et petit à petit, je me rapproche du volcan. Je dors dans un second refuge qui était à côté du volcan. Donc des refuges, hein, c'est vraiment quatre mur en tôle avec un lit dedans et en fait il n'y a rien d'autre quoi.
Ok,
C'est
ouais.
quelques ustensiles laissés par des
C'est
voyageurs.
juste pour dire que t'as pas du vent dans la gueule ou un peu de pluie si ça t'abrite du vent et de la pluie, quoi, c'est tout.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est déjà pas pourri quand t'es en plein milieu de nulle part.
Ça fait du bien. Sachant que je n'allais pas rencontrer beaucoup de refuges dans les jours qui suivent.
Tu m'étonnes.
Et cette dernière journée avant le volcan, donc je commence à grimper le volcan et ça va être une des plus belles journées de mon périple. Parce que, enfin, en fait, tous ces petits paysages désertiques qui commençaient à être un peu monotones, c'était vraiment une ligne droite, suivre vraiment la ligne de l'horizon sans vraiment rien voir. Et là, je commence enfin à voir du relief, enfin à voir le paysage pour lequel j'étais venu. Et je commence à grimper ce volcan, en fait, qui est vraiment comme une montagne, en fait. Hein, on grimpe une montagne. Et là, c'était magnifique. En plus, il faisait beau ce jour-là. Il y avait quelques petits oiseaux qui chantaient. le glacier, la glace qui fondait, qui justement en fait formait des petits ruisseaux très purs. Alors là, je pouvais boire à sa soif. Et je grimpais ce truc-là, même si j'avais mal à la jambe, je m'en foutais parce que j'étais vraiment dans mon élément là. J'étais venu pour ça. Et en plus, avec ça, plus on montait, plus il faisait froid et donc plus le paysage devenait enneigé. Et c'était magnifique. Donc à un moment, je grimpais sur des étendues blancs, seul au monde, comme en plein milieu de l'Arctique. Enfin, là, j'avais vraiment l'impression d'être un explorateur en plein milieu glaciaire. Et plus je montais, donc plus le paysage derrière, je voyais vraiment tout le chemin que j'avais parcouru depuis le début. Je voyais même pas en fait le point d'arrivée de départ,
Ah, bien
mais je
sûr.
voyais ces deux petites montagnes carrées que je suivais depuis le début, et je voyais déjà toute cette distance que j'avais parcourue, et c'était incroyable. Je suis déjà arrivé jusque-là. Donc je grimpe, et là d'un coup, s'offre à moi, j'arrive au sommet du volcan et je vois le cratère. Donc le cratère, il est immense, hein. C'est pas un
Ah,
petit
t'arrives
cratère comme on
vraiment,
imagine.
t'as été vraiment tout en haut, vraiment du sommet de
Ouais,
la... Ah, putain, génial.
c'est ça. Au sommet, et en fait, le cratère est tellement grand qu'on a l'impression en fait que c'est une chaîne de montagnes
À ce
qui fait
point-là.
forme un cercle. Ouais, c'était immense. Et avec le cratère tout enneigé, et moi, j'allais en fait traverser le cratère pour arriver de l'autre côté du volcan
Fais ma
où je
gueule.
trouvais.
Attends,
Non,
qui
non.
fait
Alors, le
ça?
cratère qui est vieux de très très vieux, donc pas du tout en éruption, etc.
Oh, mais
C'est
y a pas un
vraiment.
lac au fond?
Il y a un lac. Mais le lac, en fait, il y a un énorme lac. Le cratère était immense, donc il y a un énorme lac au fond à droite et un plus petit qui s'appelle Viti juste à gauche. D'ailleurs, je suis passé à côté, c'est magnifique. Il y a une eau laiteuse turquoise à l'intérieur de ce petit lac, en fait, qui est dû au soufre
Ouais, bien sûr.
qui est encore,
Qui est
parce qu'il y
encore
a
là.
encore des activités, il y a encore un
Ouais.
peu de fumée à droite à gauche. Et je vais longer en fait ce lac, passer derrière au camp de Reiki de l'autre côté. Donc évidemment, il y a un chemin, mais
Wow. Ah
il y a bien un.
putain, énorme.
Et en avançant, je me dis, j'espère que je vais croiser enfin l'équipe technique à cet endroit, dans ce camp. Et le premier signe où j'ai vu l'équipe technique, c'est un drone. J'entends une espèce de bourdonnement.
Là, tu t'es dit, putain, ah, les cons, ils sont là,
C'est pas
putain.
naturel. Et
Ah,
là,
c'est ça.
je vois le drone et je saute. Des images de moi où justement je saute en voyant le drone. Et mon Tokiwoki, j'avais un petit Tokiwoki avec une distance de 4-5 km, mais ça fonctionnait 1 km, qui commence à grésiller. Je m'approche du camp, du refuge, et il y a mon équipe technique qui vient m'accueillir. Donc là, grand soulagement, je vais avoir à bouffer pour les prochains jours. Donc là, ça faisait déjà 4-5 jours que j'avais commencé et je savais que j'allais continuer. Donc en fait, il faut savoir que le camp de Reiki, c'est un camp de base qui était avant utilisé par la NASA pour des expéditions lunaires de Apollo.
Ah,
Qui est
énorme.
encore aujourd'hui utilisé par des scientifiques pour des expéditions lunaires. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part et qu'on a vraiment l'impression en fait d'être sur la Lune. Donc, il faut vraiment s'imaginer être sur la Lune à ce moment-là, à ce niveau-là,
Mais c'est
au
tout
niveau des
noir, c'est tout
paysages.
gris, tout noir en fait.
Tout gris, tout noir.
Ah
C'est ça.
putain, tu vois, c'est dingue, parce qu'on n'a pas du tout ces images-là en fait de l'Islande. Parce que toi, bah, comme tu dis, les photos que t'as, c'est les photos des gens qui y vont. Les gens y vont quoi? Sur le littoral, avec les cascades qui sont proches de la mer finalement. Et ça reste très vert. Putain, ok. Du coup, t'es là, et donc, t'es dans ce paysage lunaire. Bon, je pense que, hop, t'as ton moral, il prend une dose, il prend 5 levels positifs. 5 up. Hop, tu
C'est
montes,
ça.
ça te fait du bien, tu manges bien. Tu sais que t'as de la bouffe, tu sais que t'as de l'eau. Comment ça se passe après? Tu leur refais un petit bisou et c'est reparti pour 5 jours?
C'est quasiment ça. Je vais passer qu'une nuit dans ce camp. Donc, je me réapprovisionne. Je vais voir les Rangers, qui sont donc la sécurité en fait de l'Islande, qui veille à la sécurité justement des voyageurs,
Ok.
qui sont eux au courant de mon périple. Parce que, en
D'accord.
fait, juste avant de commencer un périple comme ça, il faut les contacter pour la sécurité. J'ai
Ah, tu
tout
vois, c'est un
vraiment.
truc. Ok, ça c'est important de le faire. C'est presque obligatoire si je comprends bien.
On peut partir à l'aventure sans se préparer aussi. Donc
Mais c'est con. Ok, il faut le faire.
ouais, c'est con. Pour moi, c'est obligatoire.
Ok.
Et en fait, il y a un super site en plus, c'est safetravel.is,
Ok.
qui est leur site à eux
Safe
de la
travel.is.
sécurité.
Ok, super.
Et on peut leur envoyer tous les détails de son parcours. Donc, ils sont au courant de toute l'avancée de où je suis, à quel moment.
Génial.
Donc, je vais les voir, les Rangers, donc, qui sont situés dans ces camps de base un peu disséminés en Islande.
Ouais.
Donc un camp de base, c'est vraiment des espèces de huttes qu'ils ont. On voit que c'est pas des maisons, hein, c'est des trucs qui, comme des refuges.
Ouais, c'est comme
Ils
tu
ont
dis, c'est comme
construit
les
ça.
expéditions en Antarctique ou les trucs comme ça, les trucs ultra ultra basiques quoi en fait.
C'est ça, exactement. Donc je vais les voir, donc je leur dis que je suis bien là et que là je vais dans telle direction, donc je vais me rapprocher vers le Batnayokul, donc ça va être l'endroit le plus isolé de mon parcours plusieurs jours après. Donc là, ils me mettent bien en garde, ils me disent alors attention,
T'es con,
pendant
ne
deux
fais pas ça.
jours, voilà, pendant deux jours, tu ne trouveras pas d'eau potable. Donc j'ai pris en note ce qu'ils allaient me dire, sachant que les deux jours d'avant, en fait, le volcan, j'avais aussi deux jours sans flotte. Et j'avais pu tenir avec 2 litres. Donc je me suis dit.
T'as mis 2 litres. Non mais alors ça, mon pote, non mais ça c'est inconscient. 2 litres, qui
Ouais.
utilise 2 litres pour boire, manger, enfin tout faire avec 2 litres? C'est même moi qui bois pas beaucoup. C'est ouais,
Ouais,
c'est ouais,
non.
c'est ok. Non, ok, on est d'accord, c'est pas un conseil qu'on donne là, c'est
C'est
un
pas du tout
anti.
un
Oh,
conseil.
ok, très
Pas
bien.
du tout un conseil.
Oh, ok,
C'était sur le moment, j'étais fatigué, j'avais
ouais,
mal en fait beaucoup à ma jambe gauche. Et moi, dans ma tête,
tu
je
voulais
voulais ne
t'enlever de
pas
ça.
abandonner. Ouais, je voulais continuer et que je voulais pouvoir marcher. Donc je me suis dit, donc j'ai quand même rempli ma gourde à fond de 2 litres, j'ai bu maximum avant, mais en fait ça va être pendant 3 jours où je vais pas pouvoir trouver d'eau et avec des conditions en fait qui sont beaucoup plus compliquées de ce qui était avant le volcan, ce qui fait que je vais être encore beaucoup plus fatigué et perdre beaucoup plus d'eau. Donc surtout ne pas faire ce que
Donc
j'ai
j'ai
fait,
laissé mon
c'est-à-dire partir avec
camelbag.
2 litres.
Non
Voilà, exactement.
mais
J'ai laissé
voilà,
mon camel
je pense
bag.
tu sais, y a un point que tu es en train de soulever et que les gens ne se rendent pas compte. Mais fatigue plus douleur, ton cerveau il réfléchit pas comme quand tu es. C'est un peu comme tu vois quand tu es devant un jeu télévisé. Mais bah putain, le mec il est nul, j'arrive à trouver toutes les réponses. Ouais, mais mets-toi en pression avec 50 millions de spectateurs qui te regardent. Bah, là, c'est pareil en fait. T'es pas dans les mêmes conditions et que des choix qui peuvent paraître, là, quand on en discute avec du recul, un peu, genre, tu dis, mais pourquoi t'as pas fait ça? T'as mal, t'es fatigué, t'as envie d'avancer, t'as le doute. Enfin, tu vois, je critique pas le choix parce qu'effectivement, ça a rien à voir en fait quand t'es vraiment en condition. Donc, ok. Bon, tu pars, tu fais ce choix-là, tu traverses à gué
C'est ça.
cette rivière qui, enfin, ce gué plutôt, qui a été très compliqué. Qu'est-ce qui se passe après?
Voilà.
Parce que t'es trempé quand même. Tu t'arrives dans le refuge, il n'y a pas de flotte, mais donc t'as vu, j'ai suivi quand même. Hein. Il y a les trois
Ouais.
mecs, il y a les deux, un français et deux italiens, espagnols, j'ai plus, merde. On dirait une blague.
Deux Espagnols.
Deux espagnols.
Deux Espagnols et un Français.
C'est ça, deux espagnols et un français qui sont en train de. T'arrives, ils sont en train de filtrer l'eau avec une couche culotte et leur pull au vert. Et donc, du coup, je pense que ça te fait du bien au moral de revoir des gens, l'air de rien. Tu rattaques le lendemain. T'as réussi à avoir un peu de flotte, mais que dalle finalement. Parce que là, on parle de. T'avais pas d'eau. Enfin, tu leur as piqué de l'eau à eux. T'as fait comment?
Alors une petite anecdote d'ailleurs.
Ah, on
Donc il
aime
faut
les
savoir que
anecdotes.
les jours d'avant, en fait, à un moment il s'est mis un petit peu à pleuvoir et j'ouvrais la bouche en tirant la langue comme dans les films pour essayer de récolter un peu d'eau. Enfin c'était assez drôle. Enfin pas sur le moment mais après ouais.
L'apprenti
Et
aventurier, Tortuga, j'adore,
c'est
j'adore.
ça. Donc en fait quand je suis arrivé, donc au final même eux étaient dans le même cas que moi. Donc ça veut dire qu'en fait certainement que j'aurais pu. Enfin j'ai réussi à tenir avec ces 2 litres d'eau, mais c'était pas une situation idéale. Et en fait, avec donc aussi, il faut savoir que le chemin que j'ai emprunté 2 jours après a été fermé par les Rangers, la jugeant trop dangereuse à cause du réchauffement climatique et en fait de ce courant d'eau qui était beaucoup trop puissant que d'habitude, ce que j'ai dû traverser. Et donc c'est là où j'ai pu ressentir les premiers impacts du réchauffement climatique, en plus de cette chaleur qui n'était pas normale même en mois de juillet. Donc, en fait, les deux Espagnols et le Français, d'ailleurs, je me rappelle quand je suis arrivé dans le refuge. T'as un des Espagnols qui disait, ouais, t'inquiète, on a de l'eau. Il savait déjà que je suis en galère d'eau. Il disait, ouais, viens, 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 on a plein d'eau. En fait, en revenant, il m'a tendu une bouteille avec la moitié de flotte. Et quand je voyais la tête de l'autre, je savais qu'il y avait pas beaucoup de. Enfin, qu'ils avaient que ça en réserve et que c'était pour vraiment par gentillesse qu'ils me filaient leur bouteille. Donc j'ai pu boire qu'une gorgée à ce moment-là
Eh, hey,
pour ne pas
attends,
leur.
j'ai envie de saluer l'état d'esprit du mec qui sont tous les trois en
Ouais.
galère avec sans flotte, ils te voient arriver et leur réflexe, tu sais, au lieu de faire non, quelqu'un qui va venir prendre
Non.
notre eau, ça a été viens mec, t'inquiète, on a de l'eau. Et ben en ces moments de confinement où la solidarité elle doit primer avec tout ce qui se passe dans le monde, je trouve ça très très beau. Donc viva España, comme genre, voilà, très bien, bravo les Espagnols, surtout qu'ils prennent cher aussi en ce moment. Voilà, donc mais, bah, tu
Grosse
vois.
pensée d'ailleurs.
Ouais, grosse pensée et bravo à ce mec-là qui t'a tendu la gourde. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je trouvais ça magnifique.
Pas de souci. Non, non, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est dans des situations comme ça qu'on voit un peu comment l'être humain réagit en fait face à ces circonstances.
Complètement.
Et ils ont partagé un peu d'eau avec moi, les deux Espagnols. Et avec le
Mais le
français, on
français, non.
s'est.
Le français, t'as dit enculé, qu'est-ce que tu fous là, quoi?
Non, pareil, si, on a partagé tous à quatre. D'ailleurs, lui, on s'est, en fait, il nous a offert de l'eau à moi et aux Français qu'on a partagé.
Wow.
Et c'est dingue la sensation que j'ai ressentie le lendemain matin. Je me rappellerai toujours quand, en fait, les Espagnols sont partis de leur coin et avant que le Français parte, il allait pisser. En fait, les toilettes sont, c'est une cabane à l'extérieur.
Et là, tu dis, mais quel
C'est un
gâchis!
trou.
Pisse dans mon verre, je vais la récupérer, quoi. Enfin, non, mais t'es con!
Parce que ça. Non, et je le vois sortir de sortir et je vois la bouteille d'eau qui restait sur la table et j'ai eu envie de lui piquer une gorgée. Et c'est quand j'ai eu cette envie,
Ah, génial.
ce truc qui m'est venu dans la tête, je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, pour avoir envie de piquer de l'eau, il faut quand même avoir atteint. Enfin, c'est que là, je me suis rendu compte vraiment de ma soif. Et en fait, en transvasant nos bouteilles, on avait un peu renversé d'eau sur la table. Et pour prendre le plus d'eau possible, au cas où, j'ai bu le reste de petites flaques qu'il y avait sur la table pour ne pas gâcher une goutte d'eau. C'est là où je me suis, en fait, on se rend compte de la valeur
Ouais.
de ces choses qu'on a tous les jours en abondance, comme
Exactement.
l'eau. Et quand on n'en a plus, c'est là où on se dit, enfin,
Ouais,
on s'en
on
rend compte, en
prend,
fait,
tu
que
prends. Bah,
c'est
c'est.
quelque chose de vital.
Bon, tu sais, la phrase qui dit on se rend compte de la valeur des choses quand on les a plus, ou on se rend compte vraiment de l'amour qu'on porte à quelqu'un une fois qu'il est mort, entre guillemets, ou il est parti.
Exactement.
C'est un truc aussi con que l'eau, qui est quand même. Enfin, il y a un truc qui est assez puissant chez nous qui est. Putain, on s'en rend pas compte. T'as de l'eau potable, et en plus, t'appuies sur un bouton, juste tu l'as, ça sort du robinet, c'est un truc de malade. Et en fait, c'est tellement devenu, on a tellement grandi avec cet acquis. Que dans ces moments où, pareil, de confinement, ou alors de problèmes, quand tu es à l'autre bout du monde, tu te dis, ah ben alors, il n'y en a plus, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on a tellement pris un truc qui est tellement à la base de notre survie, qui est l'eau, encore une fois, on peut tenir, plus de 10 jours sans manger, ok, en fonction de tes réserves, tu vas y aller, 2 jours sans boire, à partir de là, tu commences à être en très grande problématique de santé, parce que tes organes vont plus pouvoir fonctionner correctement. Et l'eau, les gars. Quand tu te laves les dents, ferme le robinet. Quand tu fais ta vaisselle, remplis une petite bassine. Enfin, parce qu'à mon avis, tous les litres que tu as laissé couler qui servent à rien dans ta vie, à ce moment-là, tu les as regrettés, toi. Là, tu
Ah,
aurais aimé les
complètement.
avoir. C'est con, mais.
Ouais. Ah,
Parce que
mais.
tu as léché la table. À partir de là, tu étais vraiment en galère.
Ah, exactement. Ah, j'y pensais même pas. Ces douches que je prenais, je me disais, en fait, je prenais ma. Tu prends ta douche le matin, c'est toute cette eau que j'aurais pu boire. À ce moment-là, ouais, on se rend compte vraiment des choses, quoi.
Ah, c'est ouf, c'est ouf. Donc tu repars, t'as toujours soif, mec, on est d'accord.
Donc, ouais, j'ai toujours soif. Et donc, en étudiant la carte, je vois qu'il y avait encore une dizaine, quinzaine de kilomètres à marcher avant d'avoir trouvé de l'eau. Donc, je repars avec je pense, 25 centilitres. Devait avoir peut-être à peu près un demi-litre d'eau avec ce que les Espagnols nous avaient filé avec moi et le Français.
Putain, sympa.
Et on part chacun donc, de notre côté. On se dit salut, hein, chacun va à son rythme, reprend son itinéraire. Et donc, je continue. Et enfin, donc. En fait, le fait de savoir quand même que j'avais enfin trouvé de l'eau, ça te donne un courage incroyable, quoi. Donc,
En fait, tu passes en mode survie, en fait.
c'est ça. Je sentais quasiment même plus mes douleurs de mes jambes. En fait, ça s'était passé en secondaire. Donc, je trace, et enfin, j'arrive à ce petit ruisseau. Et donc, en fait, on les
Ce qui est
reconnaît
génial,
direct
c'est
quand
que tu viens
c'est
de claquer
potable.
15 bornes en je trace. T'as du putain. Ah ouais.
Ouais.
Ah ouais, non mais c'est ça qui est fou. Non mais en fait, c'est ça qui est fou. Tu te dis la capacité, la puissance qu'on a dans la tronche, ça te crée tes douleurs comme ça te les enlève et ça te. Waouh, c'est ouf. Parce qu'en fait, t'as survolé le machin, en fait. T'étais tellement focus sur le fait d'avoir de l'eau que c'est passé
Je pensais qu'à
relativement.
ça.
Ouais, ok. C'est passé relativement rapidement ou c'était au contraire une éternité?
Et ben là, avec du recul, cette journée pour moi est passée rapidement.
Ok.
C'est une journée qui. Ça a été rapide parce que, alors que la veille était lente, parce que j'étais
Ouais.
pas sûr d'avoir de l'eau, là, le fait d'être sûr à 100% que j'allais trouver ce dont quoi mon corps avait besoin,
Ouais, il n'y avait pas de doute, ouais,
j'étais en mode commando.
Ok. Et là, donc il y a de l'eau. Pour le coup, il y a de l'eau ou il y a encore une fois, tu t'es pris une petite quenelle et en fait, non.
Alors, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Donc, je
Mais.
l'ai reconnu potable parce que voilà, il y a un peu de verdure qui longe ces petits
Ok,
ruisseaux.
yes, ok.
Mais donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais l'Islande ne rend jamais la vie facile. Juste après avoir bu à ma soif, l'eau, d'ailleurs, je me baigne dans un petit lac juste à côté, c'était magnifique, avec encore un peu de verdure et des glaciers qu'on voyait à l'horizon. Enfin, c'était un paysage digne de fond d'écran d'un Mac, quoi. C'est des fonds de montagneux blancs avec ce lac à l'eau qui reflétait justement ces paysages et un calme incroyable. Juste les crépitements de l'eau, enfin, non pas les crépitements, mais. Le glouglou de
Les
l'eau,
clapotis.
les clapotis, voilà, pour être plus mignon. Et d'un coup, en fait, les paysages sont tellement vastes, il y a tellement peu de relief aussi, les glaciers étaient assez loin, qu'on voit vraiment arriver le mauvais temps de très très loin.
Yes.
Et c'est là où, en fait, d'un coup, je vois un espèce de gros nuage bien lourd, noir, qui se dirige vers moi. Et d'ailleurs, en revoyant les images, parce que à ce moment-là, dès que je sais qu'il va pleuvoir, le premier réflexe, c'est de mettre mon dessus de pantalon imperméable et de me couvrir mon sac pour être le plus isolé possible.
Yes.
Et en fait, quand je me suis filmé, en train de mettre mes lacets, de remettre mes chaussures, etc., en fait, je voyais, en passant en accéléré la vidéo, et on voyait vraiment le nuage, en fait, faire des tours comme ça sur soi-même, comme un tourbillon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas être une petite pluie. Et en fait, je me suis pris ça en pleine tronche. Et je ne pouvais pas camper, on ne peut pas poser sa tente n'importe où. Il faut trouver quand même un endroit un peu qui soit à l'abri du vent pour pas qu'on soit surpris la nuit avec la tente complètement.
Ouais.
Enfin,
Même si c'est une des tentes qui sont faites exprès, faut un
c'est
minimum
ça.
tant qu'à faire, parce que si la tente résiste pas au bout de 15 jours, t'es un peu dans la merde. Ok.
C'est ça, toujours prendre ses précautions. Et donc j'ai avancé, et là il a commencé vraiment à pas mal flotter. Donc là j'ai trouvé un endroit plus ou moins abrité du vent, avec quelques rochers pour pouvoir le poser sur les piquets. Et là c'est là où j'ai commencé à faire ma tente en plein sous la flotte. Donc c'était une pluie très drue, donc très vraiment
Oh, le
verticale.
seau d'eau, quoi.
Le seau d'eau, et ce qui est très bizarre en Islande, parce que, et d'ailleurs l'équipe technique en fait en parallèle partait à la recherche de personnes à interviewer. En Islande sur le réchauffement climatique. Et ils ont interviewé un propriétaire d'un camping plus loin en Islande. Et justement, la personne disait que ça fait plus de 40-50 ans et que ça fait que 10 ans qu'il commençait à avoir ces pluies très drues, très verticales, sans vent en fait. Et que pour lui, il disait que peut-être pour nous, ça signifie rien, mais pour un habitant de là-bas, pour lui, c'était quelque chose cloche. C'est quelque chose
De
qui ne se passait
nouveau.
pas avant.
Ouais, c'est comme si t'avais un
C'est
truc
ça.
tropical dans un lieu où il n'y a jamais eu ça, quoi. T'as la
Ouais.
mousson dans un lieu qui est désertique, ou en tout cas où il pleut que très légèrement. Ok.
Donc là, c'était un autre effet que je pouvais ressentir un peu de ce réchauffement climatique. Si ça, comme le dit cette personne qu'on a interviewée, il y a un lien entre les deux. Donc ma tante prend la flotte évidemment, parce que le temps de la faire, bah, c'était obligé que ça prenne la
C'est
flotte, mais
comme quand
j'essaie
t'es dans
d'éviter
ta
les
bagnole et que
dégâts.
t'as oublié un truc, tu sais, qui flotte et que tu dis vas-y, j'y vais en speed, tu te fais l'aller-retour, mais quand tu re-rentres dans ta bagnole, t'es trempé. Parce que c'est les
C'est
pluies là,
ça.
c'est ça. En fait, tu dis allez, j'ai le temps, allez. Mais en fait, t'as pas le temps.
Sauf que tu peux pas rentrer.
C'est ça.
C'est ça. Donc je fais mon. Parce que là, je voyais que la pluie allait durer. Je fais ma tente et en plus, on panique un peu parce qu'on a peur que plus on attend, plus la tente commence à se remplir, même si on fait attention. Donc on cache le maximum ses affaires sous les parois de la tente, etc. Et avec un peu la panique et la va-vite, il y a forcément des piquets qui sont mal mis. Donc. Des piquets qui s'enlèvent avec le vent, la paroi qui commence à coller sur la peau humide. Donc, je me retrouvais en fait dans une tente à moitié faite, plein de boue, avec la main pleine de terre. Donc, on se sent très
Sale,
sale,
ouais.
tout humide. Et premier réflexe, donc, j'ai enlevé mes habits mouillés, je les ai mis dans une partie du coin de la tente qui était réservée à mon sac, qui est un peu à l'extérieur. Et j'ai essayé de sécher un maximum l'intérieur de la tente avec. Un de mes deux caleçons où j'ai épongé le sol, j'ai vidé le surplus avec ma tasse de café avec lequel je buvais enfin ma tasse de oui
Ta
avec
tasse de
lequel je buvais mon
tébou, ta
café,
tasse de tébou.
ma tasse de tébou exactement. Donc elle me sert à tout. Hein.
Ouais, c'est fou.
Donc j'ai vidé le surplus de flotte et j'ai passé la nuit à attendre que
Affaire
ça
de beaux
passe,
rêves.
à faire de très beaux rêves.
Comment, dans ce moment-là, où tu sais que tu es à l'endroit où tu as choisi d'être, c'est toi qui t'es toi-même mis dans cette situation parce que tu l'as voulu, tu l'as préparé, mais que, comme tu dis, la vie, la nature fait que, ben, d'un instant extraordinaire parce que tu as enfin trouvé de l'eau, c'est magnifique, c'est calme, boum, tu te retrouves dans ce genre de situation où l'humidité, ça a l'air con, hein, mais ça tape le moral. Hein, ça sape le moral. Le fait de se sentir sale, ça sape le moral. Le froid, ça sape le moral. Tu penses à quoi dans ces moments-là? Est-ce qu'au contraire, tu es en train de te faire la méthode Coué, genre c'est rien, allez, je suis content d'être là, je suis content d'être là? Ou est-ce que tu vas toucher le fond pour aller mieux repartir? Ou tu vas dire en fait c'est la merde, tu touches le fond, mais boum, tu repars derrière. Qu'est-ce qui s'est passé?
À ce moment-là, en fait, vu que j'avais un peu, je flippais un peu en fait de cette pluie, justement, enfin, j'avais peur de que mes vêtements prennent l'eau et c'était ma plus grande peur en Islande. C'était vraiment que je sois trempé. Et le fait d'avoir réussi à mettre la tente, en fait, je me sentais rassuré, quand même, plus que démoralisé. Et le fait d'être enfin à l'abri là-dedans, c'était un peu, même si c'était un peu trempé, etc., j'avais vraiment limité les dégâts. Et je me disais, c'est bon, là, je suis en sécurité. Et un peu comme certaines personnes, d'ailleurs, j'en fais partie, qui se sentent rassurées un peu avec ce bruit de la pluie quand on est au calme, quand on est dans sa chambre. Je me retrouvais en fait un peu dans cette situation où j'avais cette tente qui me protégeait quand même de la pluie. Et là, en vrai, le moral, j'étais plutôt positif, plus que négatif. Même si j'étais trempé, etc.,
Non, mais
ça
c'est
allait.
intéressant, ça veut dire que tu te concentrais sur le côté. En fait, tu étais encore en mode survie. Tu étais ok, je suis dégueu, je suis trempé, mais entre guillemets, je suis en sécurité parce que j'ai ce petit abri là. Je suis en... Ok, c'est cool. C'est bon à savoir. Si je dis pas de conneries, cette aventure, parce qu'il est technique, etc., il y a un film qui sort, c'est ça? Je dis pas de
C'est
conneries.
ça.
Ça sort bientôt ou pas?
Ça sort bientôt. Bah, de base, ça devait sortir le 2 avril.
Et ça tombe bien, c'est la date où nous sommes en train d'enregistrer ce podcast. C'est magique.
Voilà. Sauf qu'avec tout ça, en fait, donc le film est terminé. Hein, il est là. J'en suis d'ailleurs très fier. Je suis content d'avoir, parce que c'était un autre objectif, une autre aventure pour moi de réaliser ce film. Dès qu'en fait tout le confinement et dès qu'on a terminé cette malheureuse période. Dès que j'ai l'occasion, en fait, je diffuserai en salle sur Paris. Donc voilà, mais
Ben, tu
il est
sais
prêt.
que. Moi, j'aurais presque tendance à dire, ben ça c'est toi qui décides, mais c'est peut-être maintenant qu'il faut aussi le diffuser en digital, parce que les gens déjà ils ont le temps, mec. Après, dès que tu vas leur faire réouvrir les portes, les gars, ils vont se barrer. Et alors, mieux vaut leur donner envie de se reconnecter, parce que c'est un voyage aussi où tu te reconnectes avec toi-même, tu te reconnectes avec la nature, et tiens, tu leur plantes Inception, mec. Tu leur plantes une petite graine, et puis une fois que tu ouvres les portes, boum, ça va peut-être faire des voyages qui ont un autre sens et qui vont peut-être sortir du consumérisme pur et puis aller faire des voyages qui ont plus de sens. Moi, ça m'emmène, et c'est pour ça que j'ai pas envie que tu nous racontes la fin vraiment pure de cette histoire. On le sait que t'es arrivé et que t'es en vie, mais j'ai envie aussi que les gens ils aient envie d'aller voir ce beau film. Mais il y a plusieurs questions que j'ai envie de te poser qui sont pas tant dans l'aventure même, mais sur plusieurs réflexions. Un, déjà, c'est sur toi. C'est quoi les leçons de vie? Si t'en as, encore une fois, on n'est pas là à faire du grand psychanalyse s'il n'y en a pas et que ça a été un truc assez simple que tu as vécu pour toi, mais est-ce qu'il y a des leçons de vie que tu en as retirées? Est-ce que tu as senti que ça a changé des choses en toi? Est-ce que peut-être tu as un regard qui a changé sur différentes choses, sur la nature, sur la société, sur toi-même? Raconte-nous ça un peu s'il y a des choses à raconter.
Alors la première expérience qui m'a le plus bouleversé entre guillemets en fait pendant ce périple, c'est bah, justement en fait les jours qui ont suivi cette tempête. C'était les jours les plus où j'étais le plus isolé en Islande. La sécurité m'aurait mis plus de 24 heures si j'avais un souci pour venir me chercher. Et à ces moments-là, vraiment, j'ai ressenti une solitude. Et qui était au final ce pourquoi j'étais allé. Et je me suis rendu compte en fait qu'à ces moments-là, dès qu'une petite pensée nous venait dans la tête, elle prenait des conséquences démesurées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je voulais trouver un responsable. Et j'étais là en fait, l'équipe technique, ça faisait plusieurs jours que j'avais plus d'équipe de nouvelles. Et en fait, je leur en voulais, alors qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'ils. Il travaille pour le
Bien
film à
sûr.
côté, etc. Et en fait, ces journées en fait monotones, à aller tout droit, tout droit, tout droit, parfois sans rien à l'horizon, donc avec aucun repère au niveau
Physique,
visuel,
bien sûr.
c'était au niveau du cerveau. On essayait de penser à dès qu'on pensait à quelque chose, c'était vraiment, elle prenait des
C'est
proportions démesurées
exacerbé.
dans sa tête. Ouais. Donc j'ai appris à méditer
Ok.
sur ma marche, à me concentrer sur mes mouvements. Et ça m'aide beaucoup. J'avais déjà fait de la méditation quand j'étais parti en Asie du Sud-Est. J'avais vécu plusieurs jours dans un monastère bouddhiste. Et c'était l'occasion de pratiquer la méditation et de se refocaliser sur des gestes qu'on fait tous les jours et qu'au final, on n'a même plus
N'est plus conscient qu'on les
l'occasion de
fait.
penser. Ouais,
Ouais.
exactement. Comme marcher, en fait. Marcher, respirer. Tous ces gestes qu'on fait machinalement, automatiquement. Là, j'avais le temps de reprendre contact, entre guillemets, avec ces choses que
Ouais, non, mais
qu'on
t'as.
mettait de côté complètement.
Non, mais
Donc ça, c'était là.
c'est une super leçon parce qu'il y a une phrase. Enfin, les bouddhistes disent toujours quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Alors, il dit ouais, c'est con comme phrase. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, quand tu manges, tu regardes peut-être ton téléphone, tu discutes avec quelqu'un. Quand tu marches, tu es en train d'écouter quelque chose, tu penses à quelque chose. Quand tu fais la vaisselle, tu n'es jamais en train de te dire l'eau est chaude, je suis en train de te toucher la texture. En fait, tu n'es jamais dans le moment présent. En fait, c'est ça que ça veut dire, cette phrase. Et je pense que je pense que, en fait, je ne l'ai pas dit au début, mais tu sais, quand tu as eu cette larme ou cette prise de conscience où tu t'es dit, putain, je suis en train de réaliser ce que j'ai préparé depuis un an, je pense qu'en fait, tu venais de te faire projeter violemment dans l'instant présent, en fait. Genre, pas bah c'est
Exactement,
comme
ouais.
si, genre, tout à coup, tout ce qui était dans ta tête, parce que tu es en préparation, dans toutes les réflexions, les projections, les réflexions d'éventualité, de comment ça peut se passer, de tous les scénarios, tout à coup, bah, ça s'était fait balayer par. Pour te mettre la gueule en fait dans l'instant présent. Et je suis entièrement d'accord, je pense que quand tu es en pleine solitude, quand il se passe rien, ou quand tu es seul, etc., et ben une pensée va résonner, mais comme un vacarme dans la tête. Et inversement, quand tu arrives à te focaliser sur l'instant présent, tu as le calme et la sérénité qui se répand dans ton corps. Mais à ce moment-là, c'est ton corps, c'est dans la solitude, pour moi, c'est comme un engrais des plus fertiles au monde. En fonction de ce que tu vas y mettre, ça va faire pousser soit un sacré bordel, soit la plus jolie des plantes et la plus jolie des fleurs. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis, leçons ou peut-être visions que t'as, qui ont évolué, dont t'as tiré de ce voyage?
Alors ouais, en vrai il y en a plein, mais ce que j'ai pu vraiment ressortir aussi après, c'est aussi ma réaction face au problème. J'ai rencontré cette expérience, j'ai rencontré des problèmes qui, quand j'étais à Paris plusieurs mois plus tôt, si on m'avait dit que j'allais les rencontrer, ça m'aurait fait flipper. Je me serais peut-être pas lancé en fait dans cette aventure. Et le fait de voir en fait comment son corps réagit face à ces problèmes. Une fois rentré sur Paris, en fait, on relativise énormément. On a une nouvelle approche face aux soucis du quotidien. Avant l'Islande, chaque problème rencontré dans ma vie, donc qui sont des problèmes beaucoup plus petits, hein, que de manquer d'eau, que de s'en retrouver sous la
J'imagine.
flotte, de traverser un gué qui a failli
Tu coûtais la vie
l'emporter avec le
potentiellement,
courant.
ouais.
C'est ça. Tous ces petits soucis, en fait, avant, c'était une panique, un fardeau de plus, c'était j'ai encore ça à gérer en plus les autres soucis, ça fait 1, 3 plus 1, et tout ça s'agglutinait dans ma tête, et c'est là où on commence à paniquer. Alors que là, pour moi, c'était en fait un nouveau défi. Je me suis rendu compte que, en fait, avant, on essaie de rechercher une vie sans problème, alors qu'en fait, notre vie n'est que des problèmes pour moi, et qu'en fait, il faut juste choisir ses problèmes, ses bons problèmes. Et en fait, après cette expérience, dès que je rencontrais des soucis, je me disais, ah bah c'est un nouveau défi à relever. Et comme en Islande, j'ai pu trouver des solutions pour chaque défi, bah on se posera un moment, au moment M voulu, peut-être pas tout de suite parce que j'ai peut-être d'autres soucis à régler, et on va les régler chaque chose en son temps.
C'est charmant.
Et j'ai relativisé beaucoup sur ces problèmes, et en fait, j'étais beaucoup plus chill quoi, face à ça.
C'est charmant parce que tu es en train de dire qu'avant tu avais des problèmes, aujourd'hui tu as des défis, tu as des challenges. Et c'est
C'est ça.
super beau. Ta vie a une autre gueule alors qu'au final c'est la même, sauf que c'est juste le regard que tu lui portes. Et c'est ça qui est assez dingue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a une autre thématique sur laquelle je voulais te poser une question. Tu sais, en ce moment, et c'est aussi une des raisons moi, qui m'a fait arrêter mon job d'influenceur voyage, on voit l'impact négatif que peut avoir le tourisme sur le monde, sur la planète, sur l'écologie, sur les ressources naturelles. Et moi, j'ai toujours aussi encouragé à voyager hors sentier battu et ne pas être dans la concentration, vraiment, parce que ça va puiser et épuiser souvent un lieu, parce que tout à coup, il doit accueillir et fournir des ressources à trop de gens qui n'étaient pas normalement faits pour ça. Mais quelle question tu te poses aussi sur le fait que d'autres personnes qui auraient envie de faire comme toi, vont peut-être aussi aller dans des lieux qui normalement sont préservés. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile ce sujet-là, parce que moi aussi j'ai vécu des choses que je peux pas interdire aux gens de faire. Tu vois, je l'ai vécu, mais je le fais pas. Enfin, tu vois, je me permettrai jamais. Est-ce que tu as eu cette réflexion aussi de te dire, parce que là encore, c'est un lieu qui est désertique et qui finalement, si tu y vas, il y a que toi que tu fous en danger et que tu vas pas porter de pollution. Bon, à moi, si tu jettais des trucs, mais tu serais vraiment le dernier des connards ou des connasses, attention, pas de discrimination. Mais il y a d'autres lieux plus fragiles, tu vois, dans cette idée-là. Toi, tu le vois comment? Est-ce que tu as un avis sur cette question-là?
Alors, ouais, c'est vrai que j'y ai pensé. Moi aussi, bah, du coup, à travers mes vidéos sur ma chaîne YouTube Tortuga, bah, pareil, je tentais d'inciter les. Enfin, ouais, j'essaye de partager un peu les voyages que j'ai eus à travers le monde. Et donc, au final, pousser les gens à sortir de sa zone de confort, de vivre de nouvelles expériences et de s'ouvrir au final culturellement, etc. Enfin, c'est incroyable le voyage que ça apporte. Mais je pense qu'il faut qu'on ait, et je me suis beaucoup remis en question là-dessus, c'est que, bah, que comme toi, tu as pu le faire avec tes vidéos, comme j'ai pu le faire avec nos vidéos, évidemment, ça a un impact sur les gens, que les gens partent plus voyager, et ça a finalement un impact sur la planète.
Bien sûr.
Et je pense pas qu'il faut qu'on arrête de voyager, loin de là même. Pour moi, je pense qu'il faut changer la perception du voyage, peut-être. Enfin, alors qu'avant, j'allais voyager pour voyager. Là, d'où l'Islande, en fait, je voulais vraiment mettre en avant le fait qu'on peut partir voyager sur un voyage qui va prendre plus de temps, par exemple, parce qu'on va beaucoup plus le préparer, et essayer de faire bouger les choses avec ce voyage. Pour que ce voyage, il ait un but, qui soit bon pour l'humanité, pour la planète, etc. Quelque chose qui essaye de bouger les choses, et c'est une des raisons pourquoi j'ai fait cette traversée de l'Islande, c'est que finalement, j'aurais pu juste partir visiter les cascades et c'est bon, prendre des superbes images de drone. Là, j'ai fait un truc je me suis préparé pendant un an et au moins, je vais peut-être pousser les gens à apprécier la marche, qui est quelque chose que pas tout le monde n'aime faire et qu'on
Ouais.
préfère aller vite et prendre des voitures, etc.
C'est
Donc, peut-être
vrai.
prendre plus le temps de marcher, de se reconnecter avec la nature.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai allié mon film avec ma marche, mais pas que. Il y a aussi ce côté du réchauffement climatique et l'impact, c'est aussi un film documentaire pour que les personnes qui voient cette aventure et qui voient ce film, que ça leur apporte quelque chose de plus qu'une
Bien sûr.
randonnée dans un paysage.
Et finalement, tu dis qu'aujourd'hui. Et j'aime bien cette approche, c'est que le voyage doit avoir surtout un but. En fait, tu penses que le voyage doit aussi apporter au lieu que tu vas voir, plus que d'aller prendre quelque chose au lieu, parce qu'effectivement, bah, quand tu y vas, tu consommes, etc., tu prends beaucoup, mais qu'effectivement, aujourd'hui, tu penses qu'il faut revoir les choses pour que d'une façon ou d'une autre, dans un aspect ou un autre, il faut apporter quelque chose, que ce soit, parce que, alors apporter, ça va être... Ça peut être tout simplement d'apporter, souvent on pense ça au côté humanitaire, d'apporter des trucs comme ça, mais je pense qu'il y a une autre approche aussi à avoir. C'est, ça peut être apporter des compétences, ça peut être apporter. Il y a plein de choses en fait. Et il y a aussi apporter peut-être une écoute que des gens n'ont pas forcément. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un problème complexe. Parce que qui dit voyageur sentier battu, s'il dit apporter le tourisme, dit ah oui, il n'y en a pas forcément. Donc quand on y va en pleine conscience, c'est-à-dire attention à la pollution, attention à ce qu'on apporte déjà nous. Est-ce qu'il y a des déchets plastiques qu'on va emmener? Est-ce qu'on va demander de consommer des choses qu'ils ne consomment pas d'habitude? Donc ça va créer de la pollution parce qu'ils vont être obligés d'amener des choses qu'ils n'en ont pas. En fait, c'est juste ça. C'est aujourd'hui le voyage, faut juste prendre conscience que quand on va quelque part, on ramène tout ce qu'on est avec nous, en fait. Et soit tu ramènes ben, un putain de consommateur européen à qui il faut trois planètes pour vivre. Soit tu essaies de te délester un peu de tout ça pour revenir à l'essentiel et finalement toi t'adapter au lieu où tu vas en ayant un impact le plus minime possible, voire même positif. Si, je sais pas, tu files les cours d'anglais aux gamins que tu vas rencontrer, c'est des trucs ultra basiques, stéréotypés, mais c'est pour imaginer vraiment mes propos. C'est aujourd'hui se poser la question un peu pourquoi on y va et ce qu'on peut apporter en échange. C'est un débat qui est vraiment pas facile, j'ai pas la réponse. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis un peu écarté aussi de toute cette thématique, c'est parce que j'avais pas encore vraiment les choses claires dans ma tête et je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis là-dessus. On va terminer ce podcast qui est très long mais très bon sur les deux choses que j'aime, les deux questions par lesquelles j'aime bien terminer. Si je te file les clés d'Adolorean pour revivre un seul moment de ce trip, pas forcément le meilleur, pas forcément le plus dur, pas forcément le plus doux, mais un moment, une sensation que tu aimerais revivre, ce serait lequel?
Alors, je pense que le moment que j'aimerais revivre, c'est le moment où j'ai escaladé le volcan Asja. J'ai
Ok.
beaucoup hésité entre deux moments. Le jour 1 où j'ai lâché ma larme, parce que, juste comme
Ouais.
tu disais, j'étais dans le réel à ce moment-là. Mais je pense que cette journée, en fait, où j'ai escaladé le volcan Asja, je me suis beaucoup ménagé, j'ai pris mon temps, parce que j'avais mal à la jambe. Et j'ai pu profiter. J'ai eu beaucoup de jours où j'ai dû avancer, avancer, parce qu'il
Ouais,
fallait
je
que
vois.
j'avais un timing un peu aussi à prendre au
Bien
niveau
sûr.
de la bouffe, de l'itinéraire, etc. C'était quand même. On pouvait pas faire ce qu'on voulait, on ne pouvait pas prendre son temps. Et là, j'ai pris mon temps et j'ai pu vraiment sentir l'Islande. D'ailleurs, le mot sentier, le mot sente dedans, ça veut tout dire, hein, c'est sentir à travers soi. Et c'est là où ça prenait tout son sens. Le mot sentir, c'est que j'ai pris le temps de me reconnecter avec cette nature quand j'ai, évidemment, pendant tout mon périple, mais surtout à ce moment-là où
Yes.
j'ai escaladé le volcan Asja, où je me suis baigné tout nu dans un petit ruisseau où l'eau était très froide, mais
Encore la nudité.
encore la nudité. Deuxième fois que j'en parle. Le confinement, ça me rend un peu.
Génial. Non, mais
Donc.
je trouve ça. Tu vois, j'avais jamais fait gaffe à l'étymologie du mot sentier. Je trouve ça chambé. Dernière question. Si tu devais résumer ce trip en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle?
On me protège. Attends, j'ai déjà la réponse, quoi. Non,
Tu
non,
peux,
parce que
mais non, mais
c'est
c'est
une.
bon si tu l'as. Vas-y, attends, non, vas-y, fonce. Si, hey, si t'es un mec qui a des punchlines en réserve, vas-y, fonce. Hein, je veux dire,
Donc, une phrase de Cousteau d'ailleurs. On ne protège que ce qu'on le que ce que l'on connaît bien. Je le refais. On ne protège que ce que l'on ne connaît bien. Pourquoi? Bah, justement, c'est à travers des expériences comme ça où on prend son temps de rencontrer, pour moi, dans ce cas-là, c'était la nature, de se reconnecter avec elle. C'est il faut passer par cette étape si on veut protéger quelque chose. Il faut apprendre à la connaître. Et pour moi, c'était l'occasion de rencontrer l'Islande, de la connaître et de partager ça ensuite avec mon film, c'est-à-dire mes connaissances, pour que peut-être d'autres personnes puissent la connaître à leur tour, sans forcément devoir faire le même parcours que j'ai fait. Apporter ces connaissances, et c'est avec des connaissances qu'on peut apprendre à mieux protéger notre environnement, peut-être, je
génial,
l'espère.
génial. Je te remercie beaucoup, Matisse, aka Tortuga, sur les réseaux sociaux. Merci pour cette aventure, merci pour ces conseils, merci pour cette honnêteté et cette sincérité. C'est aussi pour ça que j'adore faire ce podcast, c'est parce qu'on est là, on n'est pas là pour faire semblant, on n'est pas là pour envoyer des paillettes dans les yeux, on est là pour dire les exploits, mais on est aussi pour dire, là pour raconter les erreurs ou les petits obstacles qui, en général, ça s'est bien fini si la personne est avec moi en podcast. Donc, merci pour ça. Évidemment, le lien du film est dans la description du podcast. Est-ce que tu as déjà le nom de ce film?
Alors oui,
Il s'appelle comment?
ce sera Seul en Islande.
Ok, ça porte bien son nom.
Voilà, ça
Seul.
a toujours été, en fait, le nom il est arrivé directement quand j'ai commencé le projet et c'est resté. Et j'aimerais juste beaucoup remercier aussi,
Ah,
parce
fonce.
que je ne l'ai pas mentionné, mais Michel et Augustin, qui ont bien voulu sponsoriser un projet qui peut-être n'aurait
Alors là, on parle de la
tous
marque
les.
Michel et Augustin et qu'on aime
C'est
bien.
ça.
Ils sont toujours forts en com, ces petits bâtards, ils sont forts, hein. En plus,
Ouais.
j'ai vu que tu bosses un peu. Tu bosses chez eux?
J'ai travaillé chez eux.
Ah, t'as
J'ai
travaillé
travaillé
chez
chez
eux?
eux,
Putain, t'es fort.
ouais.
T'es fort.
Et dans la com, justement.
Ah bah voilà, c'est pour ça que t'es bon. Donc un big up à Michel et Augustin. Excuse-moi, je te redonne la parole.
Non, pas de souci. Donc, big up parce qu'ils ont cru au projet. Hein. C'était au moment où j'étais chez eux et ils ont dit, allez, on te fait confiance, tu vas te lancer en traversée à l'Islande. Je venais d'arriver chez eux, donc ils me connaissaient à peine. Et ils m'ont laissé l'opportunité de faire cette traversée. Et surtout, ils m'ont offert un cookie, c'est le gros cookie aux pépites de chocolat, là, par jour. J'en avais un par jour.
Oh putain.
Et je peux te dire, ça te fait un petit bonheur après une
Ah
situation
bah,
difficile d'avoir ce petit bonheur.
ah je pense que le petit cookie vaut son pesant d'or là pour le coup à ce moment-là. Eh bah écoute, merci internaute, évidemment. Des petites dédicaces avant de partir, ça nous fait toujours plaisir en story sur Twitter ou peu importe de savoir et toujours avec la petite photo. Moi, ça me fait toujours triper la petite photo que tu mets de savoir où tu as écouté le podcast, que ce soit en train de faire un footing. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, peut-être en train de faire ta vaisselle, de re-ranger tout ton appartement ou ta maison en fonction du moment où tu l'écoutes par rapport au confinement ou pas. Merci beaucoup. Et si tu veux retrouver de toute façon toutes les infos et toutes les infos que j'ai mis à disposition sur le voyage. Et sur toutes les destinations que j'ai pu parcourir aussi, dont l'Islande ne fait pas partie pour le coup, tu peux aller sur mon blog viséo.net, le lien est aussi dans la description. Mathis, Tortuga, je te remercie
Yes.
encore et je te souhaite une bonne sortie de film. On se tient au courant là-dessus.
Ouais, bah merci à toi en tout cas de m'avoir écouté, hein.
Ah bah
C'était
avec
top.
plaisir. Franchement,
Merci.
c'était une super aventure et encore bravo pour ce que tu as fait. Ciao.
Merci Alex.
Ciao.